بينها وبين الصلاة. Maintenant si on a fait la iqama, ensuite on a s'étardé. On a s'étardé. Maintenant on va faire la salat. Est-ce qu'on doit refaire la iqama? On ne la refait pas. On ne refait pas la iqama, même si on est resté assez longtemps après l'avoir faite. On avait donné le hadith aussi du compagnon radiallahu ta'ala anhu qui a parlé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son oreille. Ils ont parlé beaucoup jusqu'à ce que les gens se sont endormis. Ensuite ils sont levés et ils ont fait la salat sans faire la iqama. Ensuite je crois que c'est la dernière des choses. Naam, on a mata yaqumu an-nas ila salat. Quand est-ce qu'on se lève? Quand le muaddin ou quand la personne dit Allahu Akbar, elle fait la iqama. Quand est-ce qu'on se lève? Si l'imam est dans la mosquée, on se lève quand il dit qad qamat salat, comme faisait Anas radiallahu ta'ala anhu. C'est-à-dire si on voit l'imam qui est avec nous, on se lève quand il dit qad qamat salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, idha uqimat salat fala taqumu hatta tarawni qad kharajt. On ne peut pas se lever jusqu'à ce qu'on voit que l'imam est dans la mosquée. Non, quand l'imam est dans la mosquée et ça commence l'iqama, on peut se lever. Et on peut aussi choisir qu'ils disent qad qamat salat, comme le faisait Anas radiallahu ta'ala anhu. Non. Mais si l'imam n'est pas là, l'imam, par exemple, quelqu'un a dit qad qamat, il a commencé avant que l'imam ne soit venu, on peut se lever, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Abu Huraira a dit, inna salata kan tuqam ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fayakhudh an-nas masafahum qabla an yaqum an-nabi. On faisait l'iqama pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on faisait l'iqama, les gens déjà prenaient leur place avant que ne se lever le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant c'est inshallah ta'ala le nouveau, c'est quoi? C'est premièrement النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة. النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة. C'est-à-dire qu'il n'est pas conseillé à quelqu'un qu'il sorte de la mosquée après avoir entendu l'Adhan. Quand on entend l'Adhan, on n'a pas le droit de sortir de la mosquée sauf si on a des excuses. Quels sont les dalils? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sahih, a dit La yakhruju min al masjid ahadun. Personne ne sort de la mosquée. Ba'da an-nida'i illa munafiq. Personne ne sort de la mosquée après l'adhan sauf un hypocrite. Illa ahadun akhrajathu hajatun wa huwa yurid ar-rujul. Excepté, sauf quelqu'un qui est sorti pour une chose, une excuse, et qui doit revenir. Non, il a dit, quiconque sort de la mosquée après l'Adhan, c'est un hypocrite. Sauf si quelqu'un qui a quelque chose à faire, il va revenir. Donc, il est permis de sortir si on revient. Si on ne revient pas, yani, on est rentré dans le ism, et d'après le hadith, on est munafiq. Munafiq, pas le grand, le petit munafiq. Naam. Et an Uthman ibn Affan radiyallahu, bien sûr ce hadith que je viens de citer, naam, 3 akhrajahu Abu Daoud. Onzor sahih targhib at-tarhib, Cheikh al-Albani. Onzor sahih targhib at-tarhib, hadith 257. Wa an Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu qala, Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu a dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. نعم. البروفيت صلى الله عليه وسلم قال: quiconque يعني il entend l'adhan, il est dans la mosquée, il y a le adhan. Ensuite il sort لحاجته. Pardon. ثم خرج لم يخرج لحاجة. Ensuite il sort sans excuse. وهو لا يريد الرجعة. Et il n'a pas dans l'intention de revenir. فهو منافق. Munafiq. Andur sahih targhib targhib, Cheikh Al-Albani 257. Celui-là aussi, c'est un munafiq. Ça veut dire quoi? ça veut dire que on peut sortir, mais à condition de quoi? À condition d'avoir l'intention de revenir. Je donne un exemple très simple. Par exemple, je suis dans la mosquée, il a fait le adhan. Je ne peux pas sortir, c'est interdit. Mais je viens de me rappeler que je n'ai pas fermé la voiture. Ça veut dire, je sors, je la ferme et je reviens. Ou bien il y a quelqu'un qui m'a parlé au téléphone. Je sors dehors, je parle et je reviens. Tout cela, c'est permis. Ou là, je vais aux toilettes et je reviens. Tout ça, c'est permis. Mais ce qui n'est pas permis, c'est quoi? C'est d'aller pour ne pas revenir. Naam. Autre chose, l'adhan ou l'iqamatu lil-fa'ita. On doit, il est conseillé de faire le adhan et de faire aussi la iqama pour la salat qui est passée. Ça veut dire, par exemple, j'ai oublié une salat. Aujourd'hui, nous sommes lundi, je me rappelle, je me dis subhanallah. Hier, je n'ai pas fait la salat d'or, j'ai oublié. Il est conseillé que je fasse le adhan et la iqama pour faire cette salat. Je ne la fais pas directement. Naam. Quel est le dalil? Le dalil, hadith Abi Sa'id Al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, قال شغلنا المشركون يوم الخندق. Quand ils sont allés faire la guerre sainte, غزوه الخندق, il a dit شغلونا, les associateurs nous ont يعني شغلونا, ils nous ont empêché de faire la salat, c'est-à-dire nous ont empêché, c'est-à-dire on était contraints à cause de la guerre, bien sûr. Il a dit on n'a pas fait salat al-dhuhr حتى غربت الشمس jusqu'à ce que le soleil se soit couché. وذلك قبل ان ينزل في القتال ما نزل. Et ceci avant que Allah Azza wa Jal ne descende le verset du qital, de la guerre. Il y a un verset où il est dit que même quand on est en pleine guerre, on doit s'arrêter et faire la prière. Yani on l'a fait, yani seulement deux rak'at, certains ont dit même seulement une rak'at s'il y a vraiment yani, la peur. Et c'est une salat spéciale, ça s'appelle la salat de la peur. Celle-là, elle n'était pas encore ce jour-là. C'est pour ça qu'ils ont laissé le dhuhr, ils ne l'ont pas fait jusqu'à salat al-maghrib. Et s'il y avait cette salat, ils l'auraient fait. Ils l'auraient fait la prière de la peur. C'est-à-dire qu'elle n'existait pas encore. Il a dit فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا لو بروفيت صلى الله عليه وسلم ادموند بلال فأقام صلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها في وقتها. نعم فصلاها في وقتها. دونك لو بروفيت صلى الله عليه وسلم ادموند بلال دو فير لا إقامة دو لا صلاة الظهر كي ايتي باسي دوبوي ان بون بوتون. Et il y a dans d'autres hadiths où il est cité qu'il a fait aussi le adhan. Et puis في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر صار ليلة. Le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il revenait de la ville de Khaybar, il a marché toute la nuit. حتى إذا أدركه الكارع عرس. Ensuite, quand il s'est fatigué, il s'est arrêté pour se reposer. وقال لي بلال اكلا لنا الليل. Il a dit à Bilal, yani, surveille-nous la nuit. Nous on va dormir, toi tu surveilles. فصلى بلال ما قدر له. كفي بلال رضي الله تعالى عنه. Il a commencé à faire la prière de la nuit. Il a dit moi je suis en train de surveiller, je profite pour faire quelques salats de la nuit. Il a commencé à faire des salats. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. Et le prophète صلى الله عليه وسلم et ses compagnons se sont endormis. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر. Lorsque le fajr n'était pas loin, il restait seulement un peu, Bilal s'est un peu يعني, s'est adossé sur الراحلة, même sur يعني, sa monture. Il s'est un peu adossé. Ensuite فغلبت بلالا عيناه. Ensuite il s'est endormi. فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. Personne ne s'est réveillé jusqu'à ce que ce soit le soleil qui les a réveillés. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. Le premier qui s'était réveillé, c'est le prophète صلى الله عليه وسلم. ففزع يعني فزع يعني والله يتوني صلى يعني comme si quelqu'un à qui on fait peur يعني quand il s'est réveillé tellement يعني pour le prophète صلى الله عليه وسلم يعني c'est grave comme ça يعني il se réveille pas pour la salat. Ensuite qu'est-ce qu'il a dit? Hey Bilal. Alors Bilal, فقال Bilal يعني alors comment ça se fait Bilal, tu nous as pas réveillé. Qu'a répondu Bilal? Il a dit أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك. Il a dit celui qui يعني a pris mon âme, c'est celui qui a pris ton âme. يعني comme tu t'es endormi, يعني je me suis endormi, يعني sans le vouloir. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتادوا. Le prophète صلى الله عليه وسلم donc leur a dit de prendre leur monture et de quitter l'endroit هذاك. Ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم توضا وامر بلالا فاقام الصلاه في روايه ثم اذن بلال بالصلاه. Ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم a demandé à Bilal de faire le adhan et de faire l'iqama. فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاه قال من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها قال الله عز وجل اقم صلاه لذكري. Dans un autre hadith qui est sahih, ils ont changé d'endroit, il a demandé à Bilal de faire le adhan, ils ont fait la sunna du fajr, ensuite il a demandé à Bilal de faire l'iqama, ensuite il a fait l'obligatoire salat al-subh. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est basé sur le verset qui dit aqim salat li dhikri, et fais la salat et accomplis la salat li dhikri, pour me souvenir ou bien quand tu te souviens. Là il y a quelques petits avantages, mais alhamdoulilah il y a certains avantages dans le hadith. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith que yani, quand ils se sont réveillés, il lui a dit fais le adhan. Donc premier avantage, que si une salat nous est passée, on s'est réveillé à 10h du matin, on doit commencer par le adhan. Et après qu'est-ce qu'on fait? On fait salat al-fajr. On a dit pourquoi? Parce qu'il y a le soleil déjà qui est en haut. Là, le soleil, salat al-subh est terminé. Salat al-subh se termine quand le soleil sort. Le soleil n'est pas sorti, il est au milieu du ciel. Il est 10h du matin. Donc on commence par salat al-fajr. On fait le adhan. On fait salat al-fajr, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on fait l'iqama. Ensuite, on fait salat al-subh, l'obligatoire. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on prend de ce hadith? On prend que, yani, quand quelqu'un dort, il est possible qu'il ne se réveille pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même prophète sallallahu alayhi wa sallam, bi abi huwa wa ummi, et il ne s'est pas réveillé. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se peut qu'il ne se réveille pas, qu'en est-il moi, toi et les autres? Mais et à ce troisième avantage, c'est le plus important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Bilal de surveiller. Ça veut dire, il ne s'est pas dit moi je dors et je m'en fous, si je me réveille, je me réveille, je me réveille pas, Allah ghalib. Non, il a dit à Bilal, essaye de nous réveiller et yani, ne dors pas. Et c'était bien sûr la faute de Bilal qui s'est endormi, et c'était qaddar Allahu ma sha fa'al, bien sûr. Maintenant donc, si quelqu'un essaye, il prend yani, fait sabab, prend le sabab et il ne se réveille pas, Allah ghalib. Allah ghalib, tu as pris le sabab, tu t'es pas réveillé, c'est qaddar Allahu ma sha fa'al. Mais quand c'est pas bien, c'est quand quelqu'un dort et il s'en fout. Il dit si je me réveille, je me réveille, si je me réveille pas, il ne me réveille pas, allez. Ça, c'est grave et ce n'est pas bien. Naam. Autre chose. Ici, donc, on vient d'apprendre que si on oublie une salat ou là, une salat nous passe, quand on la refait, on la refait avec quoi? Avec le adhan et la ikhama. Autre chose, quand quelqu'un, par exemple, oublie quelque chose dans la salat. Ensuite, on lui dit par exemple, voilà, tu as oublié telle chose. Ou là, lui, il se rappelle, il se dit, subhanallah, j'ai oublié telle ou telle chose. Ici aussi, c'est conseillé quoi? C'est conseillé qu'il fasse la iqama. Parce que, on a fait l'adhan, et j'ai fait l'iqama, et j'ai commencé à prier. Ensuite, quand j'ai terminé la prière, quelqu'un me dit, par exemple, on a fait seulement 3 rak'at, c'est pas 4. Ou bien moi je me dis, subhanallah, je crois que j'ai fait seulement 3 rak'at. Qu'est-ce que je fais ici? il me manque une raka. Avant de commencer la raka, qu'est-ce que je fais? De préférence, je fais l'iqama. De préférence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une fois oublié une raka dans la salat et il est sorti de la mosquée. Le hadith, il est dans Abu Daoud et les autres. Le hadith sahih. Al-Bani a dit sahih. Il est sorti de la mosquée et il commençait à marcher. On l'a rejoint dans la rue. On lui a dit qu'il manquait une rak'at ou deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu dans la mosquée et il a demandé à Bilal de aqim salat, fait la iqama. Il a fait la iqama et il a ajouté les deux rak'at qui manquaient ou une rak'at. Je dis deux ou une, c'est moi qui doute. Moi j'ai oublié si c'était une rak'at ou la deux. Mais il est revenu et il a ajouté ce qui manquait. Aussi, quelque chose d'autre aussi, l'adhan liman yusalli wahda, pour celui qui fait la prière seul, il fait aussi le adhan. Il dit pas je suis seul, c'est pas la peine de faire le adhan. Le adhan est fait pour appeler les gens. Nous on dit non, le adhan n'est pas fait seulement pour appeler les gens. On avait cité les dalils la fois passée que le adhan c'était pas seulement pour appeler les gens, il avait d'autres buts aussi. On les a cités la fois passée.
Non.
عن عقبة بن عامر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم un compagnon رضي الله تعالى عنه a dit j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية رأس شظية الجبل. Allah سبحانه وتعالى le prophète عليه وسلم dit Allah سبحانه وتعالى s'étonne d'un berger sur le sommet d'une montagne. يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ, il fait le adhan pour la salat, وَيُصَلِّي, et il fait la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne d'une personne, d'un berger au-dessus de la montagne, sur le sommet seul, et qu'est-ce qu'il fait? Et il fait l'adhan. Que dit Allah azza wa jal? فَيَقُلْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ انظروا إلى عبدي هذا, regardez mon serviteur celui-là, regardez. يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِّي, il fait le adhan et il fait la iqama. Yakhafu minni, il a peur de moi. Qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltu al janna, j'ai pardonné à mon serviteur et je l'ai fait ou là je le ferai rentrer au paradis. Naam. Ondor sahih Nasa'i li Cheikh Al-Albani numéro 642. Subhanallah al-'azim. Un berger seul sur le sommet de la montagne seul. C'est le moment de la prière, il fait le adhan et il fait l'iqama. Allah Azza wa Jalla a dit celui-là il a peur de moi, je le ferai rentrer au paradis. Donc quelqu'un quand il est seul, il fait aussi le adhan et il fait la iqama. Qala Ibn al-Mundhir ahabbu ilayya an yu'adhdhina wa yuqim. Ibn al-Mundhir wa yahmu fil awsat numéro 3 page 60 a dit ahabbu ilayya, je de préférence pour moi que quelqu'un quand il est seul fasse le adhan et fasse la iqama. Il a dit mais s'il fait la iqama il ne fait pas le adhan, yani ça peut passer, ça passe. Il a dit même s'il a fait la salat sans le adhan, sans la iqama, c'est pas la peine qu'il répète la salat, il la rattrape pas, c'est pas la peine, yani elle est acceptée. Mais il a dit de préférence que pour moi que quelqu'un quand il veut faire la prière il est seul, il fait le adhan et il fait la iqama. Il a dit إنما أحببت الأذان والإقامة للمصلي وحده في حديث أبي سعيد. Il a dit mais j'ai dit de préférence même s'il est seul il fait l'adhan et l'iqama. Pourquoi? À cause du hadith Abi Sa'id, à cause du hadith Abi Sa'id qu'on avait cité. Il a dit aussi لألا يظن ظان أن الأذان لاجتماع الناس لا غير. Et j'aimerais aussi qu'il fasse le adhan même s'il est seul. Pourquoi? Pour que il n'y a pas quelqu'un qui croit que le adhan s'est fait seulement pour appeler les gens. Non, certains gens croient comme ça. Ils se disent le adhan, c'est pour regrouper les gens. Moi, pourquoi je fais le adhan? Il n'y a personne qui va venir faire la prière avec moi. Je suis à la maison. À la maison, je ne vais pas faire le adhan. Pourquoi? Les gens ne vont pas m'entendre pour venir faire la prière avec moi. Celui-là, il se trompe. Car celui qui était sur le sommet de la montagne n'a pas fait le adhan pour que les gens viennent. N'a pas fait. À cause de quoi? À cause du hadith qui dit, comme vous l'avez entendu une fois, que si quelqu'un est seul et il fait la iqama, il y a deux anges qui font la prière avec lui. Mais s'il fait le adhan et la iqama, il y a des centaines ou des milliers ou là que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut connaître le nombre d'anges qui font la prière avec toi. Naam. Et ça, c'est pour quelqu'un bien sûr qui est hors maison, qui est en voyage, qui est dans une prairie, qui est. Mais même quand quelqu'un est seul, même à la maison, il fait le adhan. Il y a le hadith qu'on a cité la fois passée de celui qui s'est trompé beaucoup dans la salat, le mousser au salatier, dans la mosquée, et il lui a dit, dans une version, commence par le adhan, ensuite la qibla, ensuite tu dis Allahu Akbar, ensuite ceci, ensuite cela. Et Ibn al-Mundir a dit toujours, il a dit, mon deuxième dalil, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Malik ibn al-Huwayris et son cousin, ils étaient deux, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, faites le adhan. Ida safartuma, si vous allez voyager, car ils étaient venus pour apprendre, ils allaient partir chez eux. Il a dit, bon, vous allez voyager, quand c'est l'heure de la prière, faites le adhan. Faites le adhan. Et Ibn al-Mundir a dit, pourtant, ils étaient seulement deux. Et, ils n'étaient pas un groupe, ils étaient seulement deux. Il leur a dit, faites le adhan, wa aqima, et faites l'iqama aussi. Faites l'iqama, et vous guide le plus âgé de vous deux. Celui qui est plus âgé de vous deux, c'est celui qui guide la prière. Maintenant, adhan al-ra'i, est-ce que un berger qui est seul, par exemple, il fait l'adhan ou là il ne fait pas? عن عبد الله بن ربيعة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر يعني quelqu'un qui était avec le prophète صلى الله عليه وسلم en voyage. فسمع صوت رجل يؤذن. Ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم a entendu quelqu'un en train de faire le adhan. فقال مثل قوله. Il a dit comme disait le muezzin. Il a entendu quelqu'un dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shahadun la ilaha, shahadun la ilaha. Oui, comme ça. Il a terminé, il a dit la ilaha illallah. Le prophète Al-Islam a dit la ilaha illallah sans le voir. Quelqu'un qui était loin, il ne le voyait pas, mais il entendait faire le adhan. Ça y est. Thumma qal. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand cette personne a terminé le adhan? Il a dit inna hadha la ra'i ghanam. Celui-là est un berger. Ou azib an ahlih. Ou bien quelqu'un qui est loin de sa famille. Ensuite, ils sont allés voir. Ils sont allés voir, ils ont trouvé c'était qui? C'était un berger avec des moutons. C'était un berger avec des moutons. Donc, un berger était seul et quand c'était l'heure de la salat, il a fait le adhan. Vous connaissez le hadith sahih qui dit que quand tu fais le adhan, lève ta voix au maximum. Il n'y a pas quelque chose qui t'entende sans qu'elle ne soit témoin pour toi le jour du jugement dernier. Que ce soit un arbre, un rocher, un animal, un ins. Un être humain ou bien un djinn, n'importe qui, n'importe quoi, quelque chose qui t'entend en train de faire le adhan, elle sera témoin pour toi le jour du jugement dernier. Donc plus ta voix est haute et forte, et plus tu auras de témoins qui seront avec toi et qui ne seront pas contre toi, mais seront avec toi comme je viens de dire. Masha'Allah, na'am. Maintenant, l'adhan fi safar. Est-ce que quand on voyage, on fait le adhan? Bien sûr. On l'a dit dans plusieurs hadiths. Et le hadith de Malik ibn al-Huwayris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit avec son frère, avec son cousin? Il leur a dit, quand vous allez revenir chez vous, ils sont venus pour apprendre, vous allez revenir, vous allez faire le voyage, faites le adhan. Et faites la iqama quand c'est l'heure de la prière. Faites le adhan et faites la iqama. Donc quelqu'un qui est musafir, qui est en voyage, il fait quoi? Il fait le adhan. Il fait aussi le adhan. Naam. Autre chose, autre titre. Hal lin nisa adhan wa iqama? Est-ce que les femmes ont le adhan et la iqama ou bien elles n'ont pas? Celui qui a écrit le livre dit, Hafidhahullah, Al-Uwaysh a dit, Naam, lin nisa et dalik. Naam, les femmes aussi font cela. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم à cause de la généralité du hadith du prophète صلى الله عليه وسلم quand il a dit quoi? Il a dit إنما النساء شقائق الرجال. إنما النساء شقائق الرجال. Il a dit les femmes sont les pareilles de l'homme. Les pareilles. يعني النظائر والأمثال. شقائق. C'est comme يعني شقت. شقت من الرجل. C'est comme si la femme venait d'être tirée de l'homme. يعني extirpée de l'homme. En fait, c'est vrai, la femme, d'où elle est venue? Elle est venue de l'homme. حواء, d'où elle est venue? Elle est venue de Adam عليه السلام. صح؟ Il y avait Adam, ensuite Allah. Allah Ta'ala a créé حواء de Adam. Donc, شقت شقت منه. On l'a tiré, extirpé de Adam. Donc elle, c'est comme l'homme. C'est pour ça que, déjà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? Parce que il y avait quelqu'un qui est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, des fois je dors la nuit, et quand quelqu'un se réveille, il trouve comme ça quelque chose de mouillé dans ses sous-vêtements, et il ne se rappelle pas, il n'a rien vu dans le songe. Est-ce qu'il fait le rosse ou il ne fait pas? Il a dit, il fait le rost. Tu as trouvé le mouillé, tu fais le rost. Et il a dit, et quelqu'un qui fait le songe et ne trouve pas. Il fait le songe et ne trouve pas. Il a dit, celui-là n'a pas le rost. Donc, on se base sur ce qu'on trouve et non pas sur ce qu'on a vu dans le songe. On peut voir des choses et ne pas se mouiller. Donc, ici, pas de rost. Donc, on peut se mouiller sans boire. Ici, il y a le rost. Donc, ici, Umm Sulaym. أم سليم رضي الله تعالى عنها أبروفيتي قال يا رسول الله والمرأة يعني لا فام أوسي إذا سي إل تروف دو لو أن تروف كيلك شوز دو مويي إلا لو غوس لو بروفيت صلى الله عليه وسلم أبروفيتي إلا دي سو حديث إلا دي إنما النساء شقائق الرجال لي فام سون لي باغي دو لوم سون لا ميم شوز با ديفيرونس دون سي شوز لا دونك دون لا صلاة دون لو أذان دون سي شوز لا دون لي أدوراسيون il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme, aucune différence. C'est pour ça que ici cet écrivain a dit na'am, la femme elle fait le adhan, elle fait le iqama. Wa an Aisha radiyallahu ta'ala anha, et d'après Aisha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre mère, elle a dit annaha kanat tu'adhin wa tuqim, elle faisait le adhan avant de faire la prière, elle faisait la iqama. Ce hadith, c'est un hadith حسن لغيره. C'est un hadith حسن لغيره. حسن لغيره, ça veut dire c'est un hadith bon, mais le bon, vous savez, le bon, des fois il est bon en lui-même, يعني حسن لذاته, des fois il est bon, يعني ajouté à un autre, c'est-à-dire il était faible, ensuite il est monté, il est devenu bon, comme a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc il y a un hadith bon, où il est dit que, quoi, que Aisha radiallahu ta'ala anha faisait le adhan et faisait la iqama avant la prière. وعن وهب بن كيسان رضي الله تعالى عنه قال, et وهب بن كيسان رضي الله تعالى عنه, on lui a posé cette question et il a dit pardon سئل ابن عمر, Abdullah ibn Omar, on lui a posé la question, هل على النساء اذان, est-ce que la femme fait le adhan avant de faire la prière? Il a répondu, Abdullah ibn Omar, pardon, فغضبا, il s'est énervé. Radiba, quand on lui a posé cette question, il s'est énervé et il a répondu, ana anha an dhikrillah, moi je vais dire ne faites pas le adhan, pardon, ne faites pas dhikr Allah, parce qu'adhan, l'adhan c'est des invocations d'Allah. Tu dis Allahu Akbar, shahadun la ilaha, tu invoques Allah. Quand on a demandé à Abdullah ibn Omar, la femme fait le adhan, il a dit moi je dis aux gens, ou là je dis aux femmes, ne faites pas, n'invoquez pas Allah, moi je fais cela. Yani na'am, elle peut faire, ne peut pas lui dire ne fais pas l'invocation, n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Wa lam yara al-Shafi'i wa Ahmad rahimahumullah ba'san bi dhalik. Al-Shafi'i rahimahullah et l'imam Ahmed ont vu dans leur madhab que il n'y a pas de problème, que la femme peut faire le adhan et peut faire le iqama, la iqama. Quand je dis que ces deux ont vu que, ou là ont dit qu'elle pouvait faire, ça veut dire que l'imam Malik et Abu Hanifa disent qu'elle ne fait pas. Bien sûr, c'est le contraire. Ça veut dire que Abu Hanifa et Malik disent qu'elle ne fait pas le adhan et la iqama, enfin, elle est libre si elle veut faire. Mais Ahmed et Shafi'i, alayhim rahmatullah, ont dit qu'elle fait le adhan, elle fait la iqama. Autre chose, la adhan ou la iqama li salat al-aidain. Quand c'est le jour de l'Aïd, soit le petit Aïd qui vient après le Ramadan, ou soit le grand Aïd qui vient après où il y a le mouton, où on égorge le mouton. Dans ces deux aïds, il n'est pas permis de faire le adhan, parce que ça devient une innovation. Si quelqu'un fait le adhan le jour de l'aïd, c'est une innovation. Naam, il n'y a ni adhan ni iqama. On dit levez-vous, istaou, puis on dit direct Allahu Akbar. On dit direct là. Il n'y a ni adhan ni iqama le jour du petit aïd et le jour du grand aïd. Naam. Si quelqu'un va dire maintenant, pourquoi on ne fait pas l'adhan? Moi je vais commencer à faire le adhan, c'est une invocation d'Allah. Allah aime celui qui l'invoque, donc je vais faire le adhan. On va lui dire, fais-le, mais demain, quand tu vas mourir, je ne sais pas comment tu vas faire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? D'avoir inventé des choses de ta tête. Naam. Ça ne sert à rien d'être sincère si on ne suit pas le Coran, on ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, ça ne sert à rien d'être sincère. Il faut, car si on était sincère, on aurait suivi le Coran et le prophète alayhi wa sallam. Voilà le délil de la sincérité. La sincérité, c'est pas les sentiments que tu as dans le cœur et les larmes qui coulent de tes yeux. C'est pas ça la sincérité. Les frères de Youssef alayhi salam, ils l'ont jeté dans le puits et ils sont venus en train de pleurer. Donc le pleur, ça veut rien dire. Et ce que tu as dans le cœur, ça veut rien dire. Naam, pour prouver que ce que tu as dans le cœur est vrai, laisse-nous voir tes actes. Est-ce que tes actes sont en concordance avec le livre d'Allah et la sunna du prophète, ou là en désaccord? S'ils sont en concordance, tu es sincère. Mais si seulement des choses que tu inventes de ta tête, là je ne l'accepte pas de toi. C'est pour ça, je dis, on redit, et les ulama disent, nous, on n'adore qu'Allah, mais ça ne suffit pas. Et on ne l'adore qu'avec sa sharia, sa religion. Pourquoi? Par certains gens, naam, n'adorent qu'Allah. Ils n'adorent pas les statues, ni le mort, ni l'arbre. Mais ils adorent Allah avec les innovations, avec les bid'ahs et les khurafats. Naam. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On demande à l'Esprit qui nous aide. On adore Allah avec sa sharia, avec son Coran et sa sunna. Voilà ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils te disent l'iman fil qalb. L'iman c'est dans le cœur. Hein? Allah sait ce qu'il y a dans nos cœurs, ça suffit. Là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah azza wa jal yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadith est dans Muslim. Que Allah azza wa jal regarde dans nos cœurs et nos actions. Naam, c'est un hadith dans Muslim. Il regarde les cœurs et les actions. Le cœur wahdou ne suffit pas, il faut l'action pour prouver que ce qu'il y a dans le cœur est vraiment sincère. Donc, c'est pas la peine que quelqu'un dise Allah aime le adhan, donc je vais faire le adhan le jour de l'Aïd. On lui dit, si le adhan se faisait le jour de l'Aïd, premièrement, le prophète Aïssan l'aurait fait. Et deuxièmement, s'il y a quelqu'un qui l'aurait fait, ce seraient les compagnons du prophète, qui aiment le prophète plus que toi, beaucoup. Et ils l'ont pas fait. Donc toi, tu es mieux que Abu Bakr, Omar, Othman ou Ali. C'est impossible. Alors tout cela et tous les compagnons n'ont pas fait le adhan pendant l'Aïd. Donc, dégonfle-toi un peu. Là, tu t'es beaucoup enflé. Dégonfle-toi un peu et laisse tes pieds, inshallah ta'ala, sur le sol. Laisse tes pieds sur le sol. Naam, el kalam fi adhan. Est-ce qu'il est permis de parler pendant l'adhan? Naam, yajouzu el kalam fi adhan li haja. Il est permis de parler pendant l'adhan pour un besoin. Naam, pour un besoin. Faqad takallama Sulayman ibn Surad fi adhanihi. Naam, avec quelqu'un, et Salaf Salah radiyallahu ta'ala anhu, qui a parlé dans son adhan. Et ce qu'il faisait, il a dit ici, akhrajahu al-Bukhari, ce hadith du Salaf qui a parlé, il est dans le Bukhari, fi tarikh bi isnad sahih. Et il dit quoi exactement? Innahu kana yu'adhdhin fi al-askar. Il avait fait le adhan une fois. J'étais dans la guerre, je crois. Il a fait le adhan. فَيَأْمُرُ غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ فِي أَذَانِهِ. Ce salafi, radiallahu ta'ala anhu, il a fait le adhan. Et en même temps, il était en train de faire le adhan. Il parlait avec son esclave qui était devant lui. Il lui parlait des choses dans son oreille. Par exemple, il disait Allahu Akbar, Allahu Akbar, ce qui s'arrête, il lui dit par exemple dans son oreille, va vite par exemple prendre le cheval, mets-le de l'autre côté. Ensuite il kemmel, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ensuite il lui dit par exemple dans son oreille, il était très près de lui, par exemple il lui dit va faire telle chose, ou la ferme la porte, ou la ceci cela. Naam. Ça donne à peu près de nos jours, quelqu'un dit par exemple il est à la maison, il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, ce qui se rappelle, il dit à sa femme éteins le gaz, ashhadu an la ilaha illallah, et comme ça c'est permis, ça n'annule pas l'adhan, ça n'annule pas l'adhan, mais on le fait dans le besoin, on le fait dans le besoin. Naam. Wa qala al-Hasan, qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, la ba'sa an yadhhaka wa huwa yu'adhdhin aw yuqim, kharajahu al-Bukhari mu'allaqan bi sighat al-jazm fi kitab al-adhan. Al-Hasan, qu'est-ce qu'il a dit? C'est permis, il y a rien de grave, la ba'sa, il y a rien de mal que quelqu'un rit, ou bien que quelqu'un rit wa huwa yu'adhdhin, en train de faire le adhan, ou bien en train de faire la iqama. Non, ce n'est pas grave, on est en train de faire le adhan, je ris, ou là j'entends quelque chose, quelqu'un dit quelque chose, ça me fait rire, et je continue mon adhan, ou bien la iqama. Non, ce n'est pas interdit. Et pardon, oui, avec Naam. Wa an Abdillah ibn al-Haris qal khatabana ibn Abbas, Ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il a fait une khutba, un prêche, dans un jour où il faisait, il y avait vraiment de la pluie et beaucoup de boue. Il a dit, ensuite, il y avait quelqu'un qui était en train de faire le adhan. Quelqu'un qui est en train de faire le adhan. C'est Abdullah ibn Abbas qui lui a dit de faire le adhan. Lorsque le mu'adhin a dit, hayya ala salah, il a commencé à dire, يعني يشهدون لا يشهدون يشهدون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة. عبد الله بن عباس كيف كي يادي يادي فأمره ينادي إلى دي يادي دي الصلاة في الرحال. الصلاة كم صا avec فتح ça veut dire faites la salat dans vos maisons, faites la salat dans vos maisons. عبد الله بن عباس a parlé avec le mu'adhin quand il est arrivé, il voulait dire حي على الصلاة. Il lui a dit une seconde, ne dis pas Haya Salat, dis As-salat afiri harikum, faites la salat, faites la prière dans vos maisons, faites la prière dans vos maisons. Quand il a dit cela, les gens se sont étonnés. Ils ont commencé à le regarder. Ils sont étonnés. Faqala fa'ala hada, il a dit, a fait cela, men huwa khayrun min, quelqu'un qui est mieux que ce mu'adhin. Ça veut dire le mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela. Vous êtes étonné. Le mu'adhin du prophète Aslam a fait cela. Il a dit, faites la salat dans vos maisons quand il pleuvait. Ensuite, il a dit, inna azma. Il parlait du vendredi. C'était un vendredi. Et il a demandé au mu'adhin de dire dans son adhan que faites la salat dans vos maisons, ne venez pas à la mosquée. Il y a de la boue, on glisse, on tombe. C'est pas comme maintenant, yani, mashallah, goudron, etc. C'était difficile. Yani, si on allait, yani, on pouvait avoir la boue peut-être jusqu'au tibia. On pouvait tomber. Il a dit, faites la salat dans la maison. Et dans un autre hadith sahih, il a dit, sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Hakada. Comme ça, avec le mot buyut, maison. Sallu fi buyutikum. C'est dans Sahih Abi Daoud, hadith numéro 1066. Sallu fi buyutikum. Donc, ici, c'est quoi le témoin du dars? C'est que Abdullah ibn Abbas a parlé avec le mu'adhin. Donc le mu'adhin s'est tu et a commencé à écouter ce que lui dit cet homme. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani, Allah yirhamou, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, yaqta'u al-adhan li radd al-salam. Non, il a dit, quand quelqu'un fait le adhan, tu lui dis salam alaykoum, il s'arrête du adhan. Bon, il complète, il termine la phrase qu'il disait, il s'arrête. Et il te dit alaykoum salam wa rahmatullah, et il termine son adhan. Non, supposons que le mu'adhin a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ensuite toi tu es rentré, tu as dit salam alaikum. Il te dit alaikum salam wa rahmatullah, ashhadu an la ilaha illallah, et il termine comme ça. Il a dit, Cheikh Al-Albani, yaqta' al-adhan pour rendre le salam, et il a dit aussi wa yaqta' al-Qur'an, et il coupe aussi, comme il coupe le adhan, il coupe aussi le Coran. Tu es en train de lire le Coran, tu as le livre entre tes mains, ton fils rentre, ou là quelqu'un, ou là le voisin, ou là, il te dit salam alaikum. Qu'est-ce que tu dis? Le Coran, est mieux que rendre salam. Enfin, on doit se dire, on dit subhanallah, je laisse le livre d'Allah et je lui rends salam. Naam, tu lui rends salam, pourquoi? Parce que rendre salam est obligatoire et lire le Coran n'est pas obligatoire. Tu commences par l'obligatoire et tu laisses la sunna, quelque chose qui n'est pas obligatoire. Est-ce que c'est obligatoire de lire le Coran? Ce n'est pas obligatoire. Si je ne lis pas, je n'ai pas de ithm. Est-ce que c'est obligatoire de rendre le salam? C'est obligatoire. Si je ne rends pas le salam, j'ai ithm, j'ai des péchés. Donc j'arrête le Coran et je lui rends salam. Sauf c'est quoi? Sauf si quelqu'un a répondu à ma place. Parce que rendre le salam est une obligation, c'est pas fard ayn, fard kifaya. Si quelqu'un rentre et nous sommes 4 ou 5, il nous dit salam alaikum, un seul de nous lui répond, lui dit alaikum salam rahmatullah, c'est pas la peine que les 4 autres répondent. Mais si nous sommes 4 ou 5 et quelqu'un a éternué, ensuite il a dit alhamdulillah, nous tous, les 4, les 5, les 20, tous, on doit lui dire, il a dit, on doit lui dire, yarhamukallah. Nous tous, on doit s'arrêter et lui dire, yarhamukallah. C'est pas comme le salam. Le salam, s'il le rend une seule personne rend le salam, ça nous suffit tous. Mais, yarhamukallah, il faut que chaque personne le dise. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, يعني إذا عطس أحد وشمت الله حق على كل من سمعه أن يجيبه أو أن يشمته. Il a dit quiconque, si jamais il y a quelqu'un qui éternue, il dit alhamdulillah, haq, yani haq c'est un droit à tous ceux qui l'ont entendu de lui dire yarhamukallah. Naam, on ne dit pas khlas, X a répondu à ma place. Là, tout le monde doit répondre, tout le monde doit lui dire yarhamukallah. Et pour le salam, c'est pas la même chose. Une seule répond. Naam. C'est pour ça que certains bid'a du adhan, certains bid'a, et on va commencer la salat aujourd'hui, inshallah ta'ala. Certains bid'a du adhan, il a dit l'asf il ibadat l'mana, illa an yalid al-dalil. Ou l'adhan ibadat l'ayjuz ihdatu fiha. Il a dit l'asf il ibadat l'mana, l'ibadat les adorations. C'est quoi la base? C'est permis ou c'est interdit? La base, c'est interdit. La règle dit toute adoration est interdite. Sauf si on a un dalil. Là, c'est les adorations. Les autres choses, vendre, manger, s'asseoir, tout est permis, sauf avec un dalil, le contraire. Yani, c'est le contraire. Dans les adorations, toute chose est interdite. Sauf celui qui a un dalil pour dire que c'est Allah Ta'ala qui a dit faites ceci, ou bien c'est son prophète Sassam qui a dit faites ceci. Naam. Dans les adorations, si quelqu'un va faire, je ne sais pas, quelqu'un par exemple va faire une prière tous les jours, par exemple tous les jours à 11h du matin, il va faire par exemple 5 rak'at, 5. On lui dit pourquoi tu choisis 11h et pourquoi spécialement 5 rak'at? Il nous dit ça ne fait rien, c'est une salat, Allah subhanahu wa ta'ala aime la salat, c'est une nafila. Il lui dit, il va nous dire donnez-nous un dalil que c'est interdit. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire mais la base dans les adorations et que tout est interdit, sauf avec un dalil. Donc, c'est toi ici, Inch'Allah Ta'ala, qui va nous donner un dalil que Allah Ta'ala a dit dans son Coran, ou bien son prophète a dit que tu pouvais faire une salat tous les jours comme ça à 11h avec 5 rak'at. C'est toi qui donne le dalil, c'est pas moi. C'est toi qui as fait quelque chose, toi qui as inventé une chose dans le din. Donne-moi le dalil que cette chose, tu l'as pas inventée et qu'elle existe dans le Coran et dans la Sunna. Naam. Car beaucoup de gens vous trompent, ils font des choses, quand tu lui dis ça se fait pas, il te dit donne-moi le dalil. C'est pas moi de donner le dalil, c'est toi qui viens d'inventer une chose. Donne-moi le dalil, cette chose se fait. Si tu me donnes un dalil, je vais commencer à la faire. Mais c'est toi qui as fait une chose, c'est toi qui me donnes le dalil. C'est pas moi qui te donne. Naam. Donc le adhan, c'est quelque chose, une adoration. Et puisque c'est une adoration, personne n'a le droit ni d'ajouter ni de retrancher. Et parmi les bid'a qu'il y a dans le adhan, c'est tarni fil adhan ou lahni fi. C'est tarni fil adhan. Ah, c'est comme la musique. Certains, quand tu les entends, tu dis, c'est pas celui-là, c'est le mu'adhan ou la Michael Jackson. C'est pas, c'est, faut que tu sois sûr. C'est le mu'adhan ou la Michael Jackson. Il n'y a pas de différence. Ensuite, il y a ceux qui font lahn. Ils retranchent des lettres, ils ajoutent des lettres. Par exemple, ashhadu Allah. Ashhadu Allah ilaha. On ne dit pas an la. Ça, c'est lahn. Ashhadu an la, ça c'est faux. Ashhadu an la, direct. Il n'y a pas le nun. On enlève le an. أشهد أن لا إله إلا الله. طيب et le dalil que c'est que ça se fait pas, que ça, ces choses ne se font pas, que c'est le dalil que Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu, il y a quelqu'un qui est venu le voir, il lui a dit inni uhibbuka fillah, je t'aime en Allah. Il a dit à Abdullah ibn Omar. Qu'a répondu Abdullah ibn Omar? Il a dit fashhad alayya, je te fais témoin anni ubghiduka fillah, que je te déteste en Allah. Subhanallah, quelqu'un te dit je t'aime en Allah, tu lui dis je te déteste en Allah. Vraiment, yani, il faut voir un cœur yani, qui ne joue pas dans ces choses là dans le din et dans l'iman. Naam, lui a dit moi je te prends témoin que je te déteste en Allah. Il a dit walima, et pourquoi? Il a dit annaka tulhin fi adanik, parce que ton adhan est faux. Yani, tu ajoutes des choses ou tu retranches des choses comme ça dans les lettres, il est faux. Wa ta'khudhu 'alayhi ajran, ensuite tu prends de l'argent pour ton adhan. Ton adhan tu le fais pas pour Allah, tu le fais à cause qu'on te donne de l'argent. Bien sûr, l'autre n'a pas répondu. Deuxièmement, des bid'a aussi, at-tasbih qabl al-fajr. Dans certaines mosquées, dans certains pays, de toute façon, moi je l'ai entendu une fois ou deux fois, avant salat al-fajr, le mu'adhan va au micro, et qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à faire tasbih, des genres de nashid. Subhanallah, walhamdulillah, et il commence comme s'il allait faire des nashid. Yani, il dit des phrases comme ça, yani, celui qui entend, il croit que ce sont des nashid. C'est subhanallah, tout ça, avant de commencer le adhan. Ensuite, il commence ses anashid, il termine ses anashid, et il commence le adhan. Ça, c'est une bid'a. Il n'y a pas de nashid, il n'y a rien avant le adhan. Le adhan commence par Allahu Akbar, Allahu Akbar, et se termine par La ilaha illallah. On ne doit rien dire avant lui. On doit dire ni Subhanallah, ni Alhamdulillah, ni Allahu Akbar, ni Masha'Allah, ni rien. On dit direct Allahu Akbar, Allahu Akbar, on termine par La ilaha illallah. Et troisièmement, ce qui est des bid'a aussi, ziyadatu salat ala nabi wa salam alayh. Naam, certains quand ils font le adhan, ils disent الله أكبر الله أكبر شهدوا إله الله شهدوا وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم شف qu'est-ce qu'ils ont ajouté صلى الله عليه وسلم et si tu lui dis pourquoi tu fais ça, il va dire ne me dis pas quand même que c'est bid'a. Comment c'est bid'a? C'est bid'a de faire la prière et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire la prière sur le prophète. Ah, donc vous avez rendu toute chose illicite et haram. Tout ce qu'on fait c'est bid'a. Subhanallah, maintenant faire la salat sur le prophète c'est bid'a. Naam, on aura tout vu. Naam, c'est comme ça que les gens te disent. Je dis khlas, maintenant tout est bid'a. Tout est bid'a. Maintenant je viens de faire la prière sur le prophète, tu me dis c'est bid'a. Et bien sûr, celui-là, pour lui faire comprendre des choses, il faut que Allah Azza wa Jalla lui ait ouvert le cœur. Si son cœur est enveloppé ou là, envoilé de brume et de fumée, c'est difficile à lui faire avaler ça. Pour lui dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout son âme, tout son fait la prière sur lui, mais le hadith, c'est une le adhan, c'est une adoration. La phrase du adhan, c'est 17, comme on a vu, c'est 15, c'est pas nous qui inventons. C'est comme ça c'est venu. On peut ni ajouter un mot, ni retrancher un mot. C'est comme, tu ne peux pas dire Ashhadu an la ilaha illallah la sharika lah. Tu ne peux pas ajouter la sharika lah. Tu ne peux pas. Le prophète Hassan ne l'a pas dit cette phrase. Donc, barakallahu fik, je sais que tu aimes le prophète Hassan et je sais que tu fais cette chose avec bonne intention, mais si vraiment tu l'aimes, si vraiment tu veux les récompenses demain, ne dis pas cette phrase. L'adhan, c'est une adoration. N'ajoute rien, ne retranche rien. Laisse-le comme il est, naam. Par exemple, certains gens aussi, quand ils sont par exemple en train de parler, il y a des gens qui parlent, ensuite quelqu'un par exemple, il veut prendre la parole, là, il veut prendre la parole, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, salli anbi, yani, tais-toi, je vais parler, salli anbi, yani, donne-moi la parole, ou bien d'autres. Par exemple, il y a une altercation entre deux personnes, là, ils sont en train de, ils se sont énervés, ou là il dit salli anbi, salli anbi, salli anbi, ou bien pour faire taire quelqu'un, on lui dit salli anbi, salli anbi, pour lui faire taire, le faire taire, c'est tout. Tout ça c'est des bidas. Non, pourquoi c'est des bidas? Parce que on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse la prière sur son prophète, pas ici, pas dans ces endroits. On le fait comme doua. Je dis à Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, comme ça, comme doua. C'est pas pour faire taire des gens, ou là pour prendre la parole, ou là pour d'autres buts. Hein? Quelqu'un, je lui dis combien ça coûte cette chose, il me dit par exemple 100 euros. Je lui dis salli anbi, salli, salli anbi, c'est cher. Non, ça se dit pas ici. Salli anbi, sallallahu alayhi wa sallam, ça se dit pas ici. Ça se dit pas dans ce contexte. Ça se dit quand tu fais un doua, demande à Allah de faire la prière sur lui, alors Allah fera 10 prières sur toi. Et alors un ange prendra le doua que tu viens de faire et le prendra dans la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dira, il y a X avec ton nom qui vient de faire ce doua sur toi. Masha'Allah, la quwwata illa billah. Mais quand tu le dis pour faire taire quelqu'un ou là, tout ça, ça rentre dans les bid'a. Ou quoi? C'est pas l'endroit où cette phrase a été dite. Pendant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant sa vie, c'est pas, il disait pas cette chose dans ces endroits. Naam. Je voudrais rentrer dans la salat, mais je ne sais pas si ça va prendre beaucoup de temps. Shurut salat. Je ne sais pas, peut-être je vais aller très vite. Je sais pas, par quelle heure j'ai commencé. Écart. Naam. Peut-être que je vais m'arrêter pour vous donner le temps de poser des questions. Ça y est. Khalid, je vais commencer seulement deux conditions de la salat. Attends, on va me dire ici, Inch'Allah Ta'ala. Ça fait une heure que j'ai commencé. Alors, je préfère m'arrêter ici, Inch'Allah. Le prochain dors, c'est les conditions de la salat. Et vous verrez, Inch'Allah Ta'ala, que beaucoup, beaucoup de choses dans les salats, on ne les connaît pas. Beaucoup de choses. Tous ceux qui croient, qui connaissent bien la salat, ils trouveront et découvriront qu'ils font beaucoup de fautes dans la salat. Ils découvriront qu'ils font beaucoup de fautes bi'idnillah azza wa jal dans la salat. Naam. Je vous donne le temps de poser inshallah ta'ala vos questions. On se rencontre inshallah ta'ala dans 10 minutes. Je vais enlever quelques points à certains frères et certaines sœurs pour les questions. Ensuite, je voulais dire aussi. Naam. Et je demande à la Ohte qui doit m'aider dans les traductions, d'essayer de me joindre. Quand je vais d'abord voir si elle est là, la Ohte d'essayer de contacter les deux autres, Naam, parce que j'ai besoin de leur dire deux ou trois mots. J'ai besoin de leur dire deux ou trois mots après le Dars, Inch'Allah. Essaye de contacter, Inch'Allah Ta'ala, les deux autres sœurs, pour Inch'Allah Ta'ala, que je vous dise deux ou trois choses après le Dars, bi'idnillah Azza wa Jal. Naam. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب خلي ست فوا إن شاء الله. نعم إن شاء الله. On fera les questions, on fera les réponses إن شاء الله تعالى à main levée. On fera les réponses à main levée بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah salam ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Comment Inch'Allah Ta'ala sans perdre de temps Fawzi 93 tafaddal bi'idna azza wa jalla. Wa alaykoum salam. Vous avez dit dans un dors que c'est bid'a de lever les mains après l'adhan pour le doua. Mais est-ce bid'a de lever les mains pour le doua général pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les invocations qui ne sont pas repoussées entre l'adhan et l'imam invoqué, sachant que lever les mains est une sunna de la dua. Qu'Allah nous compte pour une personne qui contemplera son visage. Amin ya rabbil alamin. Naam. Naam. Chauf, barakallahu fik. Lever les mains dans les doigts, lever les mains dans les doigts, se divise en trois parties. Ce qui est permis, comme pour faire tomber la pluie, salat istisqa, et pour l'arrêter l'istisha, et fi arafah, et Cheikh Outhaymin a ajouté Safa ou Marwa. Ça s'est permis parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dans ces endroits. Donc première des choses, trois sortes. La première sorte de lever les mains quand on a des délits, c'est dans les trois cas où, trois endroits, quatre endroits où je viens de citer. Deuxième cas où c'est interdit, comme le comme ou par exemple comme Salat Jumu'ah. Salat Jumu'ah, il est interdit que l'imam par exemple lève les mains et commence à faire les doigts. Comme vous connaissez le hadith, celui qui est rentré, qui a vu quelqu'un, Marwan je crois, lever seulement, il a levé les mains pour faire les doigts sur le minbar, il lui a dit قبح الله هاتين اليدين فقد رأيته صلى الله عليه وسلم ما يزيد على هذا يشير بإصبعه. Quand il a vu quelqu'un lever les mains pour faire les doigts sur le minbar, il lui a dit قبح الله, que Allah subhanahu wa ta'ala يعني maudit ou la salit ou ses deux mains, car le prophète صلى الله عليه وسلم, je l'ai vu sur le minbar, jamais il n'a levé ses mains, seulement il peut, quand il faisait le doigt, il levait l'index, il levait l'index comme ça, le doigt, il faisait les doigts. C'est pour ça que Ibn Abidin al-Rahmatullah, le grand alam hanifite, madhab hanafi, a dit que si l'imam commence à faire des doigts comme ça, par exemple en levant les mains, et les gens qui sont en train d'entendre commencent à lever les mains pour dire amin avec lui ou faire des doigts, il a dit ils auront le ism pour avoir levé les mains là dans cet endroit où il ne fallait pas lever. Donc ça c'est la deuxième sorte, c'est où c'est interdit de lever les mains. Reste la troisième sorte, c'est laquelle où yani, les autres endroits, par exemple je marche dans la rue, je lève les mains, par exemple je suis dans la maison, je lève les mains, est-ce que je lève ou je lève pas, est-ce que je les ajoute à la première sorte ou bien à la deuxième sorte. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmahu a dit ici tu es libre, tu veux lever les mains, tu les lèves, tu ne veux pas lever les mains, ne les lève pas, mais si tu les lèves c'est un peu mieux à cause du hadith qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un lève les mains, il a honte de les lui rendre vides. C'est pour ça que maintenant si quelqu'un après le adhan est terminé, il n'a pas levé les mains, il n'a pas dit Allahumma rabbana hadid da'wat tamawsal qayman en levant les mains, il a dit comme ça seulement avec sa bouche, il dit Muhammadun wasila wa fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ensuite il s'est assis, il s'est rappelé que son père est malade ou sa mère, il a levé les mains, il a dit Allahumma shfi abi. Ça c'est possible, ça se fait, mais il ne le fait pas en disant que ça doit se faire toujours dans cet endroit, ça doit que toujours après l'adhan, j'attends un peu et je commence à lever mes mains toujours en disant un doua spécial. Ça fait rentrer dans la bida. Et si quelqu'un lève les mains parce que il se rappelle une chose ou alors parce qu'il est dans une maladie ou là il est dans un cas, il lève les mains, ce n'est pas à cause du event surtout, mais il a levé les mains parce qu'il veut faire des doua à Allah subhanahu wa ta'ala, cela est permis, ou bien à cause du hadith qui dit que le doua ne se rend pas entre l'adhan et l'iqama, il va lever les mains en ce sens, inshallah ta'ala, permis bi'idhnillahi azza wa jalla. Naam. Est-ce que Tayyib, en même temps je lis certaines questions ici avec nous pour ne pas perdre beaucoup de temps aussi, est-ce que cette personne se reconnaît? J'aimerais vous poser une question, inchallah. Je suis une sœur qui habite au Canada et j'aimerais bien me marier. Le problème est que mon père ne fait pas la prière, ainsi que la majorité de mes frères. Le seul de mes frères qui fait la prière est en prison, etc. Si cette personne, elle est là, je ne sais pas si cette personne est là ou elle n'est pas là. De toute façon, si cette personne est là, je trouve que c'est très simple. Si cette personne est là, parce qu'elle est la sœur Bint Hashmi, je lui enlève le point rouge à Bint Hashmi. Si cette personne est là, elle écrit à Bint Hashmi, elle lui dit je suis là, pour que je sache qu'elle est là pour lui répondre pour la sœur qui est au Canada bi'idna azza wa jal. Naam. Chez nous il est 23h30, chez eux il est peut-être 15h de l'après-midi. Al-Muhim, Inch'Allah ta'ala. C'était qui celui qui avait à vous poser cette question? طيب ابن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب تفضل ابن عبد الوهاب تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. Pouvez-vous répondre aux gens qui prétendent que certains oublades peuvent guérir toute maladie juste en touchant la personne sur l'endroit malade et que ceci est un don, de même quelle est la différence entre le rêve prémonitoire, ru'ya, et celui qui prétend voir l'avenir en rêve, même si certains se réalisent. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre la condition de prier, d'avoir plusieurs questions, je ne peux pas assister à vous que le lundi. Naam. Inch'Allah, pour cette raison, tu es excusé. Sinon, yani, Inch'Allah, tu m'as posé beaucoup de questions. Ma'alish. La sœur du Canada est là, je vais lui répondre, Inch'Allah. Ceux qui prétendent qu'ils peuvent guérir toute maladie juste en touchant la personne sur l'endroit malade. Naam. Celui qui dit cette chose, on lui dit, est-ce que toi, tu es mieux que les Khulafa ar-Rashidin? Est-ce que tu es mieux que Omar et Abu Bakr et Omar et Uthman et Ali? Eux, ils n'avaient pas cette faveur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même tombait plusieurs fois malade. Et il ne s'est jamais touché comme ça avec le doigt ou là, est allé toucher quelqu'un comme ça. Mais il a dit de faire des doigts. Il disait Allahumma rabbil nas, adhib al-ba's wa shfi anta shafi, la shifa'a illa shifa'ak. Et Ibrahim alayhi salam disait dans le Coran, wa idha maristu fa huwa yashfini. C'est Allah qui me guérit. Et toi, moi, je peux me toucher comme ça ou de toucher quelqu'un avec le doigt. Tout ceci, bien sûr, ce sont des khurafats que les gens qui ne connaissent pas bien le dîn croient. Ils croient que, à force de que les gens parlent beaucoup et propagent des choses et ajoutent beaucoup de mensonges. Beaucoup, beaucoup de mensonges. Et ils font cette personne, ils la rendent. Yannick, ce qu'elle est devenue, elle a, je ne sais pas quoi, elle a des mu'jizat, na'am. Elle guérit celui qui est malade. Celui qui est aveugle, il va voir. Celui, la femme qui n'accouche pas, qui n'a pas d'enfant stérile, elle peut avoir khlas, des enfants. Celui qui a le cancer, khlas, il va guérir. Et comme ça, ils lui font de la publicité, alors que cette personne, bi'idhna azzawajal, ne peut rien. Si cette personne est vraiment, vraiment sincère, au maximum, elle peut te faire un doigt. Elle peut te faire un doigt pour toi, si son doigt est exaucé. Ou alors, elle fait une ruqya normale, comme tous les gens qui connaissent les conditions de la ruqya, font les ruqya aux gens. Donc, il ne faut pas, inshallah ta'ala, beaucoup croire à ces choses qui vont, yani, nous égarer dans notre aqida, qui vont nous ébranler dans notre aqida, et que tout ça, ce sont seulement des mensonges et de la publicité que des gens ont fait et qui n'a aucune base, et rien de vrai. Quelle est la différence entre la ruqya et celui qui prétend voir l'avenir en rêve? Ah, la ruqya, et celui qui prétend voir l'avenir en rêve, même si certains se réalisent. C'est difficile un peu pour moi de comprendre cette question. La ru'ya, elle est d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te fait voir. Il se peut qu'il te fasse voir l'avenir. Il se peut qu'il te fasse voir que tu vas, par exemple, réussir en tel examen. Qu'il te fasse voir que tu vas te marier avec X. Il se peut. Tu vois même sa photo dans le songe. Naam. Il se peut que tu te montres même pour une autre personne, que cette personne, il va se passer ceci, cela pour elle. Tout ça, c'est vrai quand c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelqu'un qui prétend voir l'avenir, je ne sais pas ce que ça veut dire voir l'avenir. Il prévoit l'avenir. Il dit aux gens, voilà ce qui va se passer demain, voilà ce qui va se passer. Il va faire ça comme travail, comme les voyants et les voyantes. Ça, bien sûr, c'est le shaitan qui l'aide, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shaitan, il est impossible qu'il connaisse l'avenir. Il est impossible qu'un djinn connaisse l'avenir. Un prophète ne connaît pas l'avenir. Il dit chaque nuit je rêve de demain. Naam, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est le shaitan qui lui vient dans les songes et qui lui dit des choses et lui montre des choses. Mais il est impossible qu'il connaisse l'avenir. Naam, il lui dit des choses qui se sont passés dans le rêve. Il lui dit, la bague, quand t'as volé, elle est chez X. Naam. Et il dit, le lendemain, il dit, la bague est chez X. Allez la voir. Ils vont la trouver. Pourquoi? C'est le shaitan qui lui a dit ça. Le shaitan, ici, n'a pas connu l'avenir. Il a connu le passé. C'est quelque chose de passé. C'est une chose qui s'est passée il y a un mois ou deux mois. Ou là, ça s'est passé le matin. On a volé la bague le matin. Le shaitan a vu cette personne qui l'a volé, il lui a dit, qu'est-ce que t'as volé? Elle a dit, c'est possible. Mais que quelqu'un te dise, demain, voilà ce qui va se passer demain, ça, c'est impossible. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يا كل الله سبحانه وتعالى كيف يكون demain أو bien sauf si Allah Ta'ala veut montrer à quelqu'un comme il montrait au prophète صلى الله عليه وسلم beaucoup de fois ce qui allait se passer. نعم. Donc إن شاء الله تعالى il faut avoir une vraie aqida, une aqida solide et dure, que personne ne sait ce qu'il y a demain et que ce qui s'est passé déjà il est possible que le shaytan le sache. Il était présent le shaitan et il sait ce qui s'est passé, il te rapporte les anciennes nouvelles, mais ce qui va se passer demain, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, il n'aurait pas su. C'est pour ça que le prophète a dit dans le Coran, Allah azza wa jalla lui a dit de dire قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Je ne vous dis pas j'ai les armoires d'Allah, les richesses d'Allah, et je ne connais pas l'avenir. Wa la a'lamu al-ghayb. Wa law kuntu a'lamu al-ghayb lastakthartu min al-khayr wa ma amsani as-su'. Si je connaissais l'avenir, le prophète dit, si je connaissais l'avenir, lastakthartu min al-khayr, je me serais rempli de bien et de choses bien. Wa ma amsani as-su'. Et jamais aucun mal ne m'aurait touché. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a frappé, on lui a cassé une dent. S'il savait l'avenir, il n'aurait pas été à cet endroit pour qu'on lui casse la dent. Et il est allé chez Zainab bint al-Harith, elle l'a invité, une juive l'a invité à manger, il est allé manger, elle lui a mis du poison, sallallahu alayhi wa sallam. S'il savait, il ne serait pas parti. Il lui aurait dit, je ne pars pas chez X, elle va me faire du poison. Donc même le prophète alayhi wa sallam ne connaît pas l'avenir. Comment cela prétend-il? Ce sont des djalin. Ce sont des djalin, et je ne sais pas comment on dit djal en français. Al-Muhim. Inch'Allah, on va terminer, c'est quoi? Vous pouvez expliquer la différence entre la condition et le pilier. Barakallahu fikum. Naam. La condition et le pilier, shart wa rukn. Il n'y a pas beaucoup de différence. Car shart, vous savez, shart, c'est quand on est un charlatan. Naam. Ce sont des charlatans. Ce sont des charlatans, des égareurs et des charlatans, des djinns. Naam. Shart, c'est comme le wudu. C'est comme le wudu. La yilzim min wujudihi l'wujud wa yilzim min adamihi l'adam. لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. C'est ça الشرط. الشرط ça veut dire لا يلزم من وجوده الوجود. Si le شرط existe, ça veut pas dire que la chose qui va en découler doit exister. Mais s'il n'existe pas, la chose qui doit en découler n'existe pas. Je répète, la condition, si elle existe, ça ne veut pas dire que la chose qui va en découler doit exister. Mais ça, si la condition n'existe pas, la chose qui doit en découler n'existe pas. Exemple, le wudu. Le wudu, c'est une condition pour la salat. Est-ce que quelqu'un peut faire la salat sans wudu? C'est impossible. Le wudu, c'est une condition pour la salat. Mais le wudu peut exister et on peut ne pas faire la salat. Moi, je peux faire le wudu et je ne fais pas la salat maintenant. Il n'y a aucune salat. J'ai fait le wudu et il n'y a pas de salat. Mais s'il n'y a pas de wudu, il n'y a pas de salat. Mais s'il n'y a pas de wudu, il n'y a pas de salat. Mais le wudu peut exister et la salat ne peut pas. Et il se peut que je ne fasse pas la prière. Voilà la différence. Voilà ce que ça veut dire la condition. Ensuite, le rukn, c'est la même chose que la condition. Sauf que le rukn se trouve à l'intérieur de la chose. À l'intérieur. Regarde, le wudu, il est à l'extérieur. Il y a le wudu, il y a le salat. Hein? Ils sont séparés. Mais le rukn, il se trouve à l'intérieur de la chose. Par exemple, lire. Lire Al-Fatiha, lire Alhamdulillah, c'est une condition, car si tu lis pas Alhamdulillah, il n'y a pas de salat, ça. Mais on ne l'appelle pas condition, on l'appelle rukn. Rukn. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve à l'intérieur de la salat. C'est pas comme le wudu. Le wudu, il se trouve à l'extérieur, et Al-Fatiha se trouve à l'intérieur de la salat. Donc, on aurait pu dire condition, mais pour faire la différence, on va dire rukn. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve à l'intérieur de la salat. والله سبحانه عز وجل أعلم. نعم. طيب mon vélo, prépare-toi inshallah ta'ala. Je vais répondre à la sœur du Canada inshallah ta'ala. Toi, prépare-toi inshallah ta'ala. Je lis sa question très vite inshallah ta'ala. Je suis une sœur qui habite au Canada et j'aimerais bien me marier. Le problème est que mon père ne fait pas la prière ainsi que la majorité de mes frères. le seul de mes frères qui fait la prière est en prison. J'aimerais savoir quel est mon wali au niveau des membres de ma famille. Est-ce que mon père est tout de même mon wali malgré le fait qu'il ne fait pas la prière? Malheureusement, je n'ai pas l'arabe pour poser cette question directement à un savant. Inch'Allah, vous pourriez m'indiquer la position des savants par rapport au sujet. Également, si vous me permettez, j'aimerais vous demander conseil, car cette situation n'est pas si facile pour moi. Lorsque je mets un frère en contact via téléphone avec mon frère de sang, qui est en prison, il parle souvent de choses qui ne sont pas reliées au mariage. Il ne pose que très peu les questions qui m'intéressent. Des fois, cette situation me décourage et me rend triste, car j'aimerais bien me marier. Je ne sais pas trop comment faire pour bien connaître un frère de la manière légiférée. Tout me semble très compliqué, vu la situation, père qui ne prie pas, frère en prison, donc la situation dans laquelle je suis. Comment est-ce que je devrais faire pour connaître un frère de façon halal pour Inch'Allah aboutir au mariage barakallahu fikum. Naam. Bint Hesh, mais tu me prépares l'adresse du Zawaj. Alors je te dirai, chercheur qui est au Canada, Masha'Allah Alik, tu nous écoutes de là-bas. Premièrement, pour ton père, tu nous as pas dit si, par exemple, il jeûnait, il faisait le ramadan. Et là, tu ne nous l'as pas dit. Est-ce qu'il fait, par exemple, le ramadan? Que pense-t-il de la salat? Est-ce qu'il dit que, sah, il y a la salat, et Inch'Allah, je la ferai un jour, ou là, je suis fatigué, ou là, plus tard, pas maintenant, etc. Ou là, est-ce qu'il nie, il dit, je reconnais pas la salat, il n'y a pas la salat, et je ne la ferai jamais. D'abord, j'attends, Inch'Allah Ta'ala, que tu me répondes. Tu me réponds à cette question qui est très importante. Est-ce qu'il fait le jeûne? Que dit-il de la salat? Est-ce qu'il dit, certes, tu reconnais qu'il y a la salat, mais je ne la fais pas pour des... Je suis malade, ou je suis fatigué, ou je vais rentrer à Jahannam, mais je sais qu'il y aura un châtiment là-bas. Ou là, est-ce qu'il ne reconnaît pas la salat? Est-ce qu'il dit, il n'y a pas la salat? J'attends, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Bint Hesh, mais elle va te poser... Elle va te répondre, Inch'Allah Ta'ala. Réponds-moi. Ah, il ne jeûne pas. Il dit que l'islam est dans le cœur. Bah, il dit que l'islam est dans le cœur. Yani, je comprends qu'il dit de la salat aussi, qu'elle est dans le cœur. Je comprends qu'il dit que l'islam est dans le cœur aussi. Est-ce que cette personne, qui est ton père bien sûr, tu l'as entendu au moins dans ta vie une fois dire Shadoun la ilallah ou Shadoun Muhammad Rasulullah? Est-ce que par exemple il nie pas que le prophète n'est pas un prophète de quelque chose comme ça? Naam, ça c'est très important, Inch'Allah Ta'ala, je vais te répondre après cette question. Est-ce que Yanni, ça arrive de l'avoir entendu dire Shadoun la ilallah ou Shadoun Muhammad Rasulullah? Elle n'a jamais entendu. Laissons cette personne de côté. Cette personne, si elle reconnaissait, non, si elle reconnaissait que la prière était obligatoire et que seulement elle était fatiguée ou la feignante ou la ceci cela, on aurait pris avec ce qadi Cheikh Al-Albani et dire que tant qu'il n'est pas encore mort, ce n'est pas un kafir. Tant qu'il n'est pas encore mort, car s'il meurt sans jamais avoir fait la prière de rak'at dans sa vie, le plus juste c'est de dire qu'il est kafir bi'idhnillah ta'ala. Mais puisqu'il n'est pas encore mort, on ne sait pas d'ici demain ce qu'il peut faire ou il peut pas faire. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Al-Muhim. Pour une personne pareille, quand Inch'Allah Ta'ala tu veux te marier, tu vas dans un endroit où il y a les musulmans. Chaque pays, Canada, les États-Unis, l'Angleterre, la France, partout, il y a un endroit qui représente les musulmans. Ça s'appelle Jaliyah Islamiyah. Ça se trouve partout. C'est des fois une ambassade, c'est des fois un consulat, c'est des fois une mosquée. Par exemple, en France, il y a la Grande Mosquée de Paris. La Grande Mosquée de Paris, par exemple, elle est faite pour guider les musulmans, leurs problèmes, résoudre leurs problèmes, etc. C'est pour ça que toi, tu cherches, quand tu veux te marier, tu cherches comme tuteur quelqu'un qui est représenté officiellement. Tu cherches ce qu'on appelle Jaliyah, je ne sais pas comment on dit, on l'a dit déjà une fois. Tu cherches l'endroit qui représente les musulmans, comme un centre islamique. Un centre islamique, et le centre islamique a le droit en islam de te marier. Si tu ne trouves pas, le centre islamique, un imam a le droit d'être ton tuteur. Un imam a le droit d'être ton tuteur pour te marier bi-idhn azzawajal. Mais il faut d'abord commencer par ce que je viens de dire. Quand il n'y a pas cela, on va au deuxième cas. Naam. On cherche l'exécutif des musulmans. Ça s'appelle l'exécutif des musulmans. Si tu ne trouves pas celui-là, l'exécutif, on va chez un imam. Et l'imam bi-idhn azzawajal peut prendre la place du mahram. Ça veut dire qu'il devient lui le tuteur. Et il peut, bi-idhn azzawajal, te marier, parce qu'en islam, il n'y a pas une femme qui peut rester sans mariage. Toute femme, on doit lui trouver la solution pour la marier. Il est impossible qu'une femme, si elle n'a pas de mahram, ou là, elle dit, je ne me marie pas, donc j'ai pas de mahram. Il faut lui trouver son mahram, il faut lui trouver la solution pour qu'elle ne reste pas comme ça, yani une proie à la fitna. Une proie à la fitna. En ce qui concerne pour le mariage, c'est comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ou l'istahfifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadlih. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, sourate An-Nur, il a dit, ceux qui n'ont pas trouvé le mariage, ou là ils n'ont pas l'argent pour se marier, ou là, qu'ils restent chastes, yani qu'ils ne fassent pas la zina, qu'ils fassent des doigts, et je vais leur ouvrir une porte. Je vais leur trouver une issue, bi'illah azza wa jal. Quiconque, yani, se maintient et reste dans les normes de la sharia, ne fait pas le haram, et dans son cœur, il se dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas me laisser, il va me faire une solution, il te la fera. Même si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, il te la fera. Il te fera, bi'illah ta'ala, la solution. S'il retarde, il ne la fait pas maintenant, lui, il sait pourquoi. Nous, on est pressé de se marier. Peut-être, la personne avec laquelle je vais marier, la qadar Allah, peut-être, elle va m'assassiner. Non, peut-être, elle va prendre un couteau et me frapper la nuit. Et moi, je veux me presser pour marier avec cette personne, alors que je ne sais pas ce qui va se passer. Allah Azza wa Jal ne nous veut que du bien. Le prophète alayhi sallam a dit, Amrul mu'min kullu khayr. Il a dit, le cas du croyant, c'est toujours du bien. Dans tous les cas, c'est du bien. Si ça, la chose retarde, c'est pourtant bien. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il perdrait qui te donne dans une heure un mari? Il peut te le donner dans un quart d'heure, dans 10 minutes. Mais lui seul sait pourquoi il le donne. Il le donne pas maintenant. Lui il sait pourquoi il le donne pas. C'est toujours pour nos biens. C'est toujours dans notre bien. Mais nous on ne sait pas. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah connaît, vous ne connaissez pas, comme il a dit dans le Coran. Toi, inshallah ta'ala, ma soeur, bi'idna ta'ala, patiente. Et écris à cette adresse que tu vois maintenant. Je t'écris ici, Zawaj, ensuite le @gmail.com. Tu écris ici, tu te décris un peu. J'étais là, voilà mon niveau, voilà ma nationalité, et voilà mes conditions. Je voudrais quelqu'un entre tel âge et tel âge, entre 27 et je ne sais pas combien, entre tel âge et tel âge. Tu dis pas, je voudrais quelqu'un entre tel âge et tel âge, et Inch'Allah Ta'ala, et les conditions que tu voudrais aussi. Mais j'ai dit, ne demandez pas des conditions yani, difficiles. Laissez les portes un peu ouvertes, parlez un peu généralement, ne rentrez pas dans beaucoup les détails, vous allez vous priver. Laissez les choses comme ça, je voudrais quelqu'un de pieux, de clair. Ne rentrez pas beaucoup dans les détails, on va pas trouver cette personne. Je voudrais quelqu'un qui ait cheveux blancs, taches de rousseur, yeux verts, ça c'est difficile. Ça, il n'y a pas celui-là. Laissez les choses comme ça un peu générales. Inch'Allah, tu écris à cette adresse. Il y a des gens, Inch'Allah, qui mettent dans ce travail. Quand on voit qu'il y a quelqu'un qui te ressemble, Inch'Allah Ta'ala, très bientôt, on t'avertira. On te dira, voilà, cette personne voudrait se marier avec toi. Voilà, ces renseignements. Et toi aussi, tu regardes. Si tu trouves que cette personne te convient, tu nous envoies, Inch'Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala réunira entre vous deux, inshallah ta'ala, dans le halal, très bientôt, bi'idhnillah subhanahu wa azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Na'am, inshallah ta'ala. Tfadl, mon vélo, tfadl. S'il y a quelque chose, Allah, tu m'envoies les mails. Il y a beaucoup de sœurs qui m'ont envoyé des choses très importantes, et je m'excuse de ne pas encore avoir répondu, et je vais répondre, inshallah ta'ala, très bientôt. Na'am. Ma question, mec, tfadl, mon vélo, tfadl, prends le micro.
Allo, salam alaikum. Est-ce que le son est bon? السلام عليكم. On m'entend? Ok. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc ma question est la suivante. Un frère nous dit des fois, les ulamas ont dit ça et ça. Et quand on lui demande dans quel livre on peut vérifier cela, le frère dit que cela n'a pas d'origine en islam de demander le livre parce que les salafs ne le faisaient pas et parce que c'est pas obligatoire. La question est la suivante. Est-ce que ce frère a raison ou pas? Barakallahu fik cher. Et j'aurai une deuxième question, une petite question juste derrière. Envoyez-moi une rose si vous avez compris, cher. Ou je répète. À vos micros.
Où est la deuxième question, Inch'Allah, c'est pas bon. Pose-la en même temps, Inch'Allah, c'est pas bon.
Salam alaykoum wa rahmatoullah. Ma deuxième question, c'est que je me suis beaucoup posé des questions, à savoir pourquoi la plupart des savants d'Arabie Saoudite sont Hanbali, et d'autres grands savants étaient Hanbali, Ibn Rajab, Mohamed Abdel Wahab, Ibn Taymiyyah, etc. Est-ce que leurs outils sont plus forts que les autres ou c'est dû à quoi? À vous le micro.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Afwan. As-salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Quand quelqu'un dit X ou Y a dit et il ne me donne pas l'endroit où il a dit cette chose, ni le livre, ni la cassette, ni il me montre le journal, ni il a un document avec lui, je ne suis pas obligé de prendre de lui. Naam. Parce que ce n'est aucune preuve, il n'y a aucune preuve que ce qu'il dit est vrai. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Si tu es véridique, donne-moi ta preuve. Donne-moi ta preuve que ce que tu viens de dire a été dit. Sinon, quiconque dira, ils ont dit. Quiconque, il viendra et il va dire, les ulama ont dit. Et Ben Bez a dit, Ben Othémin a dit, et tout le monde a dit. Et il n'y a pas de tawfiq. Je te dis, donne-moi où ça se trouve, tu me dis, c'est interdit. Les selfs n'ont pas fait cela. Ah, les selfs n'ont pas fait cela. Place, alors je vais dire n'importe quoi, et je vais dire, les ulama ont dit. C'est impossible. Ça, c'est impossible. Et le fait de dire que les selfs n'ont pas fait cela, s'il veut dire par là, que les selfs n'ont pas fait cela, parce que il n'y avait pas ces choses-là en leur temps, il a raison d'un côté et aurait tort de se baser sur ce délil, car ce délil ne le travaille pas. Ce délil ne le travaille pas. Naam. En leur temps, il n'y avait pas les livres comme ça. Il y avait le Coran, c'est tout. Et toutes les sens étaient dans le cœur. Il disait, j'ai entendu X dire. Et d'ailleurs, si quelqu'un disait dans notre sharia, si quelqu'un dit et il ne donne pas le délil qu'il a rencontré X et qu'il a entendu de lui, on ne l'accepte pas. Hein? Tout ça dans le hadith, il faut que ça soit X de X, et comme ça. S'il y a quelqu'un des rapporteurs qui ne connaît pas l'autre, qui l'a pas rencontré, qui n'a pas entendu de lui, on rend le hadith da'if, ça? On rend le hadith da'if. Pour que chaque personne ait rencontré l'autre personne. Ça, c'est dans le Bukhari, bien sûr. Dans le musulman, il suffit qu'il ait vécu en son époque. Donc, c'est une condition que d'avoir rencontré cette personne ou de l'avoir entendu parler. Donc, c'est comme si tu me dis, c'est moi qui ai entendu cette personne parler. Je te dis, où est le délit? Tu me dis, j'ai entendu cette personne dire cela. Donc, tu m'as donné le délit. Donc, si cette personne avait quelque chose d'écrit, tu m'aurais dû, je l'ai lu dans son livre. Naam. Donc, ce qu'a dit cette personne qui a dit cela, c'est vraiment mesquin, là. Non, c'est vraiment mesquin. Qu'est-ce qu'ils disent, là? La deuxième question, c'était quoi? La deuxième question, c'était... Si je peux me rappeler un peu... Non. Je peux me rappeler la deuxième question. C'est quoi mon vélo, la deuxième question? C'est quoi? Reprends le micro, Barclo.
Salam alaikum, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'il y a du son? Allo, salam alaikum. Donc, ma deuxième question, c'était... c'est pour ça que je voulais vous la poser une par une. C'est pourquoi la plupart des savants d'Arabie sont Hanbali, l'imam Ibn Baz, Muhammad Salih Ibn Uthaymin, etc. Et d'anciens savants comme Ibn Rajab, Muhammad Abd al-Wahhab, Ibn Taymiyyah, est-ce que leurs outils, le madhhab Hanbali, sont plus forts? C'est dû à quoi? Est-ce que là-bas il y a beaucoup d'écoles qui sont Hanbali ou etc. C'est dû à quoi? À vous le micro, cher.
نعم جزاك الله خيرا عفوا الإمام أحمد بن حنبل était le quatrième grand imam, le quatrième des quatre. Alors la règle dit qu'en général celui qui vient après les autres, en général celui qui vient après les autres a cette faveur de quoi? Quel est son avantage? C'est de connaître ce qu'on dit, ceux qui l'ont précédé, plus il ajoute son ilm lui. Voilà. Moi, j'ai l'avantage de savoir ce qu'a dit celui qui était avant moi, il est mort. J'ai cet avantage. C'est pour ça que Ahmed Bouhabel, quand il est venu, il était le disciple, il était l'élève de Shafi'i, l'Ayahmo. Il était l'élève de Shafi'i. Comme Shafi'i, l'Ayahmo était l'élève de l'imam Malik. Donc l'imam Malik. Son meilleur élève c'était Shafi'i, et Shafi'i son meilleur élève c'était Ahmed ibn Hanbal. Donc quand il est venu le dernier, ça veut dire qu'il a pris le ilm de Shafi'i, lequel avait le ilm de l'imam Malik, et il s'est encore yani rentré dans beaucoup, c'est a propagé encore plus. C'est pour ça qu'ils disent que l'imam Ahmed c'est imam al-sunna, parce que quand comme a dit son fils, que l'imam Ahmed apprenait 1000 hadiths, c'est-à-dire 1 million de hadiths. L'imam Ahmed connaissait 1 million de hadiths. Ce n'est pas par exemple comme Abu Hanifa qui a vécu en Irak et que Allah yarhamou ne connaissait que quelques hadiths. Naam, peut-être des centaines, peut-être 1000, peut-être, mais comparé à l'imam Ahmed qui connaissait 1 million de hadiths, il y a une grande différence entre par exemple le madhhab de Abu Hanifa et le madhhab de Ahmed. C'est pour ça que il a eu beaucoup d'élèves. Il a eu beaucoup d'élèves. À cause yani, du ilm qu'il avait, de la sunna qu'il connaissait, des hadiths. Plus tu connais un hadith, plus si Allah subhanahu wa ta'ala, tu es sincère et t'as ouvert le cœur et veut faire de toi un alim, plus tu peux faire sortir, extraire des avantages de ce hadith qu'un autre ne peut pas s'il n'a pas le hadith. Un hadith, c'est de l'or. Un hadith. Les sahaba se marchaient un mois, comme faisait Anas, il a fait un mois ou la Ounais, un mois à dos d'âne ou à dos de chameau pour aller demander un hadith. Imagine, on marche un mois, combien qu'on va traverser ce kilomètre pour demander un seul hadith. Alors un hadith, c'est maintenant, si te disait la dernière Mercedes, ou là je t'apprends un hadith, tu dis non, le hadith, qu'est-ce que je fais moi avec la Mercedes? Apprends-moi un nouveau hadith. Donc Imam Ahmed, yani, il était incomparable. C'est pour ça que yani, son madhhab s'est beaucoup propagé, et c'est le madhhab le plus proche de la sunna. Madhhab Ahmed, c'est le plus proche bidna de la sunna. Concernant la question, donc c'est... Est-ce qu'il doit lui excuser qu'il a lu cette parole du cheikh? Est-ce qu'il doit lui excuser qu'il a lu cette parole du cheikh? Ah, moi, toute personne qui dit les ulama ont dit, il faut qu'ils disent où ils ont dit. Sinon, ça ne devient plus, il n'y a plus de dalil. Sinon, il y a qu'ulu man sha'a ma sha'a. Quiconque pourra dire ce qu'il veut. Mais quand on demande le dalil, pourquoi? C'est pour tawfiq. C'est pour être sûr que je suis en train de prendre quelque chose de sûr. Ce n'est pas peut-être toi, tu as entendu ça, je ne sais pas où, et tu crois qu'ils ont dit. Et peut-être, même ils ont dit autre chose, tu as compris autre chose. Et peut-être, il y a mille choses. C'est pour ça qu'on demande le dalil, où ça se... Imaginez que, par exemple, moi je dise Ben Bez, la Yahmo a dit ceci. Ensuite, quelqu'un me dit, où il a dit cela? Il faut que je dise, il a dit dans le livre X, tome 1, page 260. Pour que tu reviennes toi pour être sûr que c'est lui qui a dit, ce n'est pas moi. Parce que je me suis trompé, peut-être ceci. Donc inshallah ta'ala, il faut que d'abord inshallah ta'ala, il faut que vous soyez frères, dites pour que vous appreniez à être frères entre vous, à demander le dalil, non pas pour la polémique, mais à demander le dalil pour yani, être sûr que ce que tu viens de dire est vrai, c'est tout. Comme ça, quand les gens me demandent, moi aussi, je leur dis, voilà où est le dalil, et ce n'est pas, je leur dis, X m'a dit, X mon ami m'a dit. Non, je leur dis, Ben Bez a dit ceci, voici le dalil. والله سبحانه وتعالى أعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم أبو مريم تفضل أبو مريم si tu peux tu n'es pas là inshallah ta'ala je pense pardon c'est moi qui peux enlever le point rouge صح تفضل أعتذر bon voilà une question je vais la lire le temps que le frère écrive cette question est vraiment rarib c'est étonnant la question que je vais lire c'est étonnant mais si la sœur ou la elle est là inshallah ta'ala elle se reconnaît elle dit que je suis là bi'idna azza wa jal que dit cette question bi'idna azza wa jal elle dit je viens de mettre le hijab je viens de mettre le hijab et ma mère a enlevé le sien il ne veut pas le remettre si je ne l'enlève pas que faire dans ce cas je viens de mettre le hijab et ma mère a enlevé le sien il ne veut pas le remettre jusqu'à ce que j'enlève moi mon hijab que dois-je faire Allahu musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'ali al-'azim s'il y a des mères qui pensent comme ça la hawla wa la quwwata illa billah il n'y a pas plus que cette phrase si la sœur est là elle se reconnaît elle me dit طيب Abu Muriem n'est pas peut-être là inshallah ta'ala au suivant inshallah celui qui a pris Abu Muriem tafadhal alors Abu Muriem pourquoi il pose pas cette question d'accord, donne-moi sa question, j'attends la question du suivant. Samidou, prépare-toi, Bidnillah. Même l'autre n'a pas de question, Nadabourikeda n'a pas de question. Donc on va à Samidou. Samidou, ta question, Inch'Allah, tafadhal. Tayyib, on descend à Oum'atman. Oum'atman, tafadhali. Maintenant, personne ne pose de questions. Tayyib, Oum'atman, tafadhali. Où est-ce qu'il est, Maroukouad? Maroko, lève ta main, je te vois pas. Naam, salam alaikum. Cheikh, il m'arrive de me rendre dans une ville qui s'appelle Bruxelles en Belgique. C'est 35 minutes en voiture. J'y vais pour voir des frères ou acheter des livres. Dois-je me considérer comme... S'il va écrire, dois-je me considérer comme voyageur? Moi, je ne parle pas, il ne me parle pas des 35 minutes. Il me dit combien qu'il y a de kilomètres. Combien qu'il y a de kilomètres entre où il habite et Bruxelles. Combien qu'il y a de kilomètres entre où il habite et Bruxelles. Maroc en 1980, je t'ai enlevé des points. S'il y a des frères qui écrivent à Maroc, ils lui écrivent des questions, ils les affichent lui. Hein. S'il y a des frères qui ont des difficultés, ils écrivent à Maroc. Combien qu'il y a de kilomètres entre où il habite et la Bruxelles, et Bruxelles. Combien qu'il y a de kilomètres entre où il habite et Bruxelles. Je ne vois pas pourquoi qu'ils n'écrivent pas sur l'Ahar. Pourquoi ils écrivent à Bent Hashmi? Pourquoi ils n'écrivent pas directement sur l'Ahar? Moi, je n'ai pas compris. Non. Tayyib. Samidou, il n'a pas écrit. Atman n'a rien écrit. Reihana, pose ta question. Maintenant, les questions commencent à venir. Atman, salam alaikum. Question 1. Lorsque je fais l'adhan, mes enfants qui sont encore petits, y compris la première question. Je fais l'adhan, mes enfants qui sont encore petits, seront-ils témoins le jour du premier jugement, le jour du dernier jugement, du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une sous la djinn, tout être humain, et tout djinn sera témoin. Donc, inshallah ta'ala, ils seront témoins. Non seulement eux, mais encore même les murs qui t'ont entendu, toute chose qui t'a entendu, elle sera témoin bi'idna ta'ala ce jour-là. Ah, ça c'est la première question. Ça y est, quelle est la deuxième question, Inch'Allah? Lorsque mes enfants éternuent, ils me regardent et attendent que je dise Alhamdoulilah. Ah, les frères ont du mal à vous écrire, ça ils sont bloqués. Celui qui est bloqué, il sort et il revient. S'il se trouve encore bloqué, il me donne son nom. Il dit voilà mon nom et on le débloque, inshallah ta'ala. décrive à Marocco. Ils décrivent à Marocco, ils les débloquent. Est-ce qu'ils vont me réclamer le jour du jugement dernier? Naam. Lorsque j'éternue, ils me regardent et attendent que je dise Alhamdulillah. Lorsque j'oublie de dire, est-ce qu'ils vont me le réclamer le jour du jugement dernier? Non, ils ne te réclameront pas. Parce que quand quelqu'un éternue, il se peut qu'il dise Alhamdulillah, il se peut qu'il ne dise pas. S'il dit, c'est pour son bien, pour qu'on lui dise Yarhamukallah, on lui fait ce doigt. S'il ne dit pas, c'est pour, yani, c'est contre lui. Il n'a pas dit, il n'a pas gagné le doua qu'on lui fait, c'est tout. Mais ils vont pas réclamer pourquoi tu n'as pas dit Alhamdulillah. Surtout pour quelqu'un qui oublie. Celui qui oublie, il est beaucoup plus excusé que celui qui le fait exprès. Il dit, je dis pas Alhamdulillah. Yani, celui qui oublie, là, bien sûr, il est excusé. Mais même si maintenant, quelqu'un dit, a éternué, il n'a pas dit Alhamdulillah, c'est lui qui sera privé du bien, c'est tout. Mais il n'a pas fait bi'idhni azzawajal un it. C'est lui qui sera privé du doua de celui qui l'entend bi'idhni. Inch'Allah, la troisième et la dernière question, inch'Allah, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Une sœur veut se marier, mais son père ne veut pas lui servir de mahram pour la muqabala. Et son frère non plus, comment peut-elle faire? Naam. Quand une sœur veut se marier, normalement son père doit être son mahram. Si celui qui veut lui demander sa main ne remplit pas les conditions, il est permis à son père, son mahram, de ne pas accepter. Naam, car la fille en islam, la femme ne se marie pas elle-même. S'il ne remplit pas les conditions, yani religieuses, c'est pas les conditions de, il n'est pas du même village, ou là il n'est pas, on est kabyle, il n'est pas kabyle, ou là on est arabe, il n'est pas arabe, ou là on est de France, il n'est pas de France, tout ça ce ne sont pas des conditions. Naam. Maintenant, s'il remplit les conditions et il ne veut pas la marier, l'islam permet à la femme, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit, c'est permis à elle d'aller porter plainte. Mais vous savez que porter plainte en séjour contre son père, ce n'est pas une chose facile. D'ailleurs, je profiterai en cette occasion de vous lire ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen à cette question. C'est juste ici, une seconde, je la fais sortir. Ça y est, on est fait entrer. Voilà. Vous écoutez, Inch'Allah Ta'ala, cette question qui a été posée à Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yirhamo. Il refuse seulement la muqabala. La muqabala, c'est l'une des choses la plus importante. Naam. Car la muqabala, c'est quoi? C'est avec elle qu'on va savoir si on accepte ou pas. Et ben, une seconde, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne sais pas exactement où j'étais. Mais je dirais très vite que, je ne sais pas où, quand est-ce que ça s'est coupé. Je disais que, il faut essayer au maximum de convaincre le père, parce que, en principe, ou bien il n'a pas accepté à cause de, il y a des défauts dans cette personne qui va venir demander la main, ou bien il ne veut pas en général. S'il ne veut pas en général, c'est grave. Ça veut dire que s'il n'accepte pas toutes les muqabala, ça veut dire qu'il ne veut pas la marier. Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmoullah a dit, il est possible à une femme qu'elle porte plainte contre son père qui ne veut pas la marier. Et dans ce cas, c'est le qadi, elle ne peut pas plaindre dans un tribunal de kuffar, bien sûr. Dans un tribunal musulman, le cadi, le juge musulman, peut la marier sans le consentement de son père en islam. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, sauf le mariage, personne n'a le droit d'entraver le mariage. Le mariage, c'est quelque chose de très important, c'est me sauver des fitnas, c'est avoir des enfants, c'est vivre avec ma famille, c'est tout un autre monde. Il n'y a personne qui a le droit de m'enlever cette faveur. et de me laisser comme une bonne dans la maison. Alors je disais, mais si le père ne veut pas la marier seulement, il ne veut pas en général, ça, il veut quelqu'un de son village. Naam, la hawla wa la quwwata illa billah. Ça, ce n'est pas logique. Et la femme a le droit de ne pas accepter en islam celui qui ne lui convient pas. Naam, la femme a le droit en islam, si son père le marie sans son consentement, de ne pas accepter le mariage. De ne pas accepter. On ne peut pas la faire entrer dans sa chambre la nuit nuptiale avec les chaînes. Naam, avec les chaînes, je ne rentre pas. Avec les chaînes, je vais m'enchaîner, je ne vais pas rentrer dans la chambre. Faites tout, faites le mariage, mais la nuit, je ne vais pas rentrer. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire, moi, d'aller marier avec quelqu'un que je ne veux pas. Naam, il est impossible. Au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une femme a dit, je veux, c'est pour montrer aux autres femmes qu'il faut le consentement. Elle a dit, bon, moi maintenant, j'ai accepté, mais je voulais seulement montrer aux gens que, et aux femmes qu'il était possible que si elles n'acceptaient pas le mariage, il était nul. Le mariage est nul sans le consentement de la femme. C'est pour ça que cette sœur, elle voit. Elle essaie de convaincre son père, peut-être qu'elle ne peut pas, à travers sa mère, peut-être qu'elle ne peut pas, à travers ses oncles, à travers elle parle aux gens qui le connaissent bien, qui viennent lui parler, lui faire la morale, etc. S'il ne veut le marier que avec celui qu'il veut lui, elle aussi elle n'accepte pas. Elle lui dit alors, moi je n'accepte pas. Alors tu n'acceptes pas. Et toi, tu me maries avec celui que tu veux, moi je veux avec celui que je veux. Moi on ne se marie pas, au revoir. La question ou le hijab est la Naam. Et enfin, je voudrais dire une dernière phrase, car personne de sa famille ne veut. Naam. J'ai dit qu'elle ne pouvait pas. Naam. Il faut le mahram. Comment qu'elle doit faire? Si c'était dans un pays musulman, elle aurait posé plainte. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut qu'elle fasse toutes les solutions possibles pour le convaincre. Pour le convaincre et lui dire que sinon je ne vais jamais me marier. Naam, sinon je ne vais jamais me marier. Il faut qu'il sache dès maintenant que je ne me marie pas avec celui que vous voulez vous. Naam, moi je ne vais pas me marier avec un voyou ou un truand ou un bandit. Je veux seulement quelqu'un qui est simple, qui est bien, qui est exact, avec lequel je sais que je vais pouvoir vivre. Donc elle fait inchallah ta'ala beaucoup de doua et il faut qu'elle sache bi'idn azawajal que elle ne se mariera qu'avec celui que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a écrit en haut que quelqu'un va se marier avec X, personne ne peut séparer entre ces deux. Personne. Naam. On ne se marie qu'avec celui que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit. Allah azawajal écrit que je me marie avec X, personne ne peut me séparer. Naam. Pour qu'elle mette bien ça dans le cœur que celui avec lequel elle va se marier, il va arriver bi'idhnillah. Une question de patience, de doua, et elle essaie de convaincre inchallah au maximum et de revenir beaucoup vers Allah. Elle revient beaucoup vers Allah qui ouvre ses portes toujours. Et quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, il lui fait une issue, comme il a dit dans le Coran. Elle craint beaucoup Allah, elle fait beaucoup de doua et le cœur de son père et tous les cœurs sont entre deux doigts de Allah subhanahu wa ta'ala et il renversera son cœur inshallah ta'ala pour son bien bi'idna azza wa jal pour Allah subhanahu wa ta'ala alam et ajroukoum ala Allah pour la souffrance que vous souffrez bi'idna azza wa jal. Naam. Je sens que vous souffrez bi'idna azza wa jal. Tayyib, les questions de Bourri qui s'amidou étaient bloquées, vous savez pas. Tayyib, attends, je réponds à une question et inshallah ta'ala tu les envoies. Quand je réponds sur la Ta'ala une question, tu vas les envoyer, Inch'Allah. C'était quoi la question ici? Cheikh, la ukht pour la question sur le hijab est là. C'est quelle ukht? Non, vous voyez combien qu'il y a de mains levées? J'aurais aimé que ça soit. C'est pour ça que quand il y a des frères qui m'aident pour les questions, regardez, vous avez remarqué que jusqu'à présent, il n'y a eu qu'une seule question sur le DAS. Vous avez remarqué, toutes les questions sont hors d'ars. Non, toutes les questions sont hors d'ars. Non. Non. Que sa mère. Non. Donc la question c'était que une femme ou une sœur avait mis le hijab et sa mère a enlevé le sien. Sa mère a enlevé le sien. Elle dit qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? La réponse, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ce que tu dois faire, c'est continuer dans ce que tu es et continuer à obéir à Allah et à le craindre. Et que ta mère enlève le hijab parce que toi tu as mis le tien, ou bien qu'elle boive de l'alcool, tout ça, ça t'intéresse pas. Tout ça, elle te fait de la peine, certes, mais ça n'a rien à voir avec toi. Toi, demain, devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui diras, moi j'ai mis le hijab. Mais quand je l'ai mis, il s'est passé X, ou la Y s'est suicidée, ou la bu de l'alcool, ou la s'est jetée de l'immeuble, tout ça, ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tu dois craindre Allah, obéir, fais ce qu'il fait, c'est tout. Ce que les gens, comment qu'ils vont réagir, ça, ça n'a rien à voir avec nous. Même si ta mère va dire, bon, tu as mis le hijab, je vais rentrer dans le christianisme. Je vais mettre la croix. Tu lui dis, rentre dans le christianisme ou là dans le juif. Même si tu veux devenir juif, on a de la râle, qu'est-ce que tu veux? J'aime pas, naam, tu es ma mère. Mais je ne peux pas, à cause de tu vas mettre toi le hijab, moi je vais aller en enfer. Toi, tu vas le mettre pour aller au paradis, et moi je vais enlever pour aller en enfer. Tu lui dis, Sumhili à ma mère, Sumhili, la taziru waziratu wizra ukhra. Allah a dit dans le Coran, chacun porte son propre fardeau. Personne ne porte le fardeau de l'autre. Toi, tu as fait ce que Allah Ta'ala t'a dit, et elle, le fait d'avoir enlevé le hijab, c'est elle qui supportera ce fardeau demain devant Allah, et c'est elle la première et la dernière qui va regretter. Et toi, tu n'as aucun ism, tu as beaucoup d'ajr d'avoir fait et d'avoir tenu et d'avoir continué sur le chemin. Tu es, inchallah, dans le droit chemin, continue et fais des doigts à ta mère pour qu'elle revienne vers le droit chemin, inchallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam, c'est quoi la question maintenant des autres qui sont passés? C'est quoi la question de Bourri? Alaykoum salam. Quels sont les conseils que les savants donnent pour avoir la taqwa, la crainte d'Allah, et la femme peut-elle faire le wudu quand elle a ses règles pour réciter les trois sourates avant de dormir? Aussi, pourquoi les savants séoudiens sont souvent en contradiction avec les savants des autres pays? Exemple, Cheikh Albani, souvent en désaccord avec les saoudiens, donc dans pas mal de domaines. Allah te donne plus de science du paradis. Amen. Fin. Barakallahu fik, tu as écrit fin. Barakallahu fik, pour bien le comprendre. Naam. Allah ouais, tu voulais. Quels sont les conseils que les savants donnent pour avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pour avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut d'abord connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit dans le Coran, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Il a dit, crains Allah de ses créatures, les ulama, les savants. Plus on connaît Allah, plus on le craint. Plus on ne connaît pas, plus on n'a pas peur de lui. Et c'est pour donner un exemple seulement, walillah al-matal a'la, quand tu connais bien ton responsable dans l'endroit où tu travailles, tu connais bien, plus tu connais bien, plus tu l'aimes, car tu sais ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, ce qu'il aime et ce qu'il n'a pas, et plus tu t'éloignes des choses qu'il ne veut pas. Tu sais qu'il veut pas que tu fumes, même si tu fumais, quand tu rentres au travail, tu ne fumes pas. Tu sais qu'il ne veut pas que tu fumes. Mais si tu ne savais pas qu'il ne veut pas les gens qui fument, tu vas fumer devant lui, tu vas avoir des problèmes. Lorsque plus tu sais ce qu'il aime, et tu fais ce qu'il aime, et plus tu sais ce qu'il n'aime pas et ce qu'il ne veut pas, tu t'éloignes de ces choses, plus tu le crains, et plus lui, il t'aime, subhanahu wa ta'ala. Et la femme peut-elle faire le wudu quand elle a ses règles pour réciter les trois sourates avant de dormir? La femme peut réciter les sourates avant de dormir sans faire le wudu. Non, sans faire le wudu, parce que ces sourates-là, ça devient des doigts. C'est comme des doigts. La personne avant de dormir, elle lit par exemple pour l'Ya Iwal Kafirun, ou bien les sourates de Mulk, ou là, tout ça, inshallah ta'ala, elle peut le faire sans toucher le Coran, bi'idhnillah azza wa jal. Elle peut faire les doua aussi. Pourquoi? pourquoi les savants saoudiens sont souvent en contradiction avec les savants des autres pays. Par exemple, Cheikh Al-Albani est souvent en désaccord avec les saoudiens, mais pas souvent. Cheikh Al-Albani, avec les grands ulama de l'Arabie saoudite, n'ont peut-être que deux ou trois choses dont ils ne sont pas d'accord. Maximum peut-être cinq ou six choses. Naam. Il n'y a pas de contradiction ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que tous, ils puisent de la même chose. Ils puisent du même puits. Le même puits, le Coran et la Sunna. Mais des fois, Cheikh Al-Albani, pour lui, ce hadith est vrai. Et pour d'autres ulama, ils disent ce hadith n'est pas vrai. Donc, se basant sur le hadith qu'il est vrai, Cheikh Al-Albani va dire telle chose, par exemple, est haram. Et les autres, se basant sur le hadith et disant ce même hadith, il n'est pas vrai, donc la chose est halal. Et voilà, ça a donné une différence entre les ulama. Pourquoi? Ils se sont basés sur le même hadith. L'un a dit le hadith est authentique, l'autre a dit non, le hadith n'est pas authentique, et ça a fait changer les résultats. Donc, quand il y a des divergences, c'est des divergences basées sur les délits. Ce n'est pas des divergences basées sur les sentiments. Quand quelqu'un se base sur un délit et il se trompe ou il dit quelque chose de faux, ça ne fait rien. Il a même un ajr, il a une récompense même, si c'est un savant. Mais quand quelqu'un se base sur ses sentiments et dit n'importe quoi, celui-là il a des péchés pour ne pas s'être basé sur des délits. Donc, Inch'Allah Ta'ala, en général, tout ce qu'ils disent, c'est la même chose. Sauf des choses où l'un a un hadith, l'autre il n'a pas le hadith. L'un il dit le hadith est vrai, l'autre il dit il est faux. L'autre il dit moi je comprends comme ça le hadith, l'autre il dit je le comprends d'une autre façon. Sinon, Inch'Allah Ta'ala, ils puisent tous du Coran et du Sunna, et ils sont tous sur le manhaj, le vrai manhaj salaf salih radiyallahu ta'ala anhum. Naam, prochain soua inshallah. Akhfarid, je t'ai enlevé le point rouge. Assalamu alaikum. J'aurais voulu savoir le cas de celui qui met son réveil pour sa sop et sans le faire exprès se rendort, puis ensuite il se réveille après le lever du coucher du soleil. Que dire, salat sop la rattrape-t-il quand il se réveille malgré le jour qui soit levé, ou est-elle battue? Quand quelqu'un met le réveil pour salat sop et sans le faire exprès il se rendort, déjà inshallah il a un ajr. Quel ajr a-t-il? Il a le ajr d'avoir eu dans l'intention de vouloir se réveiller. Il a fait un sabab, il a mis le réveil. Il n'a pas fait comme un autre qui est allé directement s'endormir et qui s'est dit je m'en fous, je me réveille pas, je m'en fous. Celui-là au moins il a fait le réveil, il a réglé le réveil, il a déjà un ajr, mashallah alayh. Maintenant, puisqu'il ne fait pas exprès, il se rendort, Allah ghalib, il n'a pas fait exprès. Maintenant, quand il se réveille, il est obligé de faire la prière. Est-ce que tu n'étais pas avec nous dans le dars quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est endormi et il avait demandé à Bilal de surveiller, et Bilal s'est endormi et se sont réveillés avec le soleil qui frappait dans les yeux, tu te rappelles pas? Qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont changé d'endroit et il a demandé à Bilal de faire le adhan, ensuite de faire la iqama, ensuite pardon, d'abord le adhan. Ils ont fait salat al-fajr, chacun seul, pour les ayyuha al-kafirun, puisqu'on le wallahu ahad. Ensuite la iqama, et on fait salat subh. Donc, si tu te réveilles, le soleil s'est levé, tu fais le adhan, tu fais salat al-fajr, ensuite tu fais l'iqama, tu fais salat subh, et tu es obligé de la faire. Ce n'est pas aller battre, tu es obligé de la faire. Parce que, ton temps, le temps par rapport à toi commence au moment où tu t'es réveillé. Au moment où tu t'es réveillé, commence pour toi le temps. Naam. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, wa aqim salat li dhikri, et fais la salat, accomplis la salat quand tu te souviens, yani, ou là, quand tu te réveilles aussi. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Akh Farid a dit, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais commencer un travail, inshallah. C'est un travail au téléphone et la société nous demande de se faire appeler avec un prénom français sans connotation chrétienne. Puis-je accepter ce travail? Je comprends que ça veut dire ça. Salam alaikum. Je vais commencer un travail, Inch'Allah. C'est un travail au téléphone. Et la société nous demande de se faire appeler avec un prénom français. Naam. Par exemple, j'étais Mohamed. Et voilà, je suis devenu Jacques. J'étais Mohamed, je suis devenu Jacques. Naam. J'étais Omar et je suis maintenant François. Naam. Puis-je accepter ce travail? D'abord cette question me fait rire. Parce que ça c'est vrai, mais il y a des choses bizarres, je n'ai jamais entendu cela. Mais dans un pays de coffre, il faut s'attendre à tout. Naam. Wallah, franchement, je ne connais pas la réponse. Franchement, je n'ai jamais entendu parler de ça. Naam, juste pour les clients. Naam, auprès des clients, ça. Pour que, yani devant les clients, ils s'appellent comme eux. Naam. Erfaïd, Inch'Allah ta'ala, je te ramènerai Inch'Allah la réponse. Inch'Allah, au lieu de dire, Naam, est-ce que je peux, au lieu de dire, je suis Julien, tafadhal. Naam, je ne sais pas, Allah, l'Akhfarida, je ne sais pas, franchement, je ne connais pas la réponse. Julien, t'as souci. Julien, t'as souci. Allah, je ne sais pas, l'Akhfarida, je dois te chercher, je ne sais pas, je dois chercher cette chose. Naam. Tu peux, Inch'Allah Ta'ala, appeler yani la société, yani naam, Inch'Allah Ta'ala, si je peux la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, si je peux, je te ramène la réponse. Si tu te faisais appeler par la société, ma'alish, par exemple la société, supposons la société s'appelle par exemple là Julien Assurance Julien ou la Julien Assurance, quand tu lèves le téléphone tu dis par exemple ici Julien Assurance, naam, Inch'Allah Ta'ala, c'est possible. Elle dit ce n'est pas toi, dit Julien Assurance par exemple, Jacques supermarché de Jacques. Elle dit c'est possible, yani tu appelles par le nom de la société. Elle dit Inch'Allah Ta'ala, c'est possible. Mais toi personnellement tu t'appelles, je ne sais pas, il faut que je cherche bin Azza wa Jal. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Hilal tafadla li Hilal 1406. Inch'Allah Ta'ala, j'essaierai de demander Inch'Allah Ta'ala. Naam. Pardon, j'ai oublié Oum Rayhana. Salam alaikum, hafidhak Allah. Déjà, il y a une question, je crois, j'ai pas vu Oum Rayhana. Salam alaikum. Pour la femme qui prie avec une cape ou un khimar blanc, est-ce que pour le teshahoud, elle doit laisser la main sous la cape ou est-ce qu'elle doit lever pour qu'elle voie son doigt dans le teshahoud? Je vous remercie et pour la télévision. Et qui permet de regarder des informations pour des reportages sur les animaux ou autres. En ce qui concerne le teshahoud, la femme quand elle fait le teshahoud et l'homme aussi, son doigt doit être visible de façon à ce qu'elle voit son doigt. Elle regarde son doigt en train de le bouger de haut en bas, doucement, comme ça, doucement. Elle tourne. Là, c'est pas comme certains ils sont tournés là, de haut en bas, il monte et il descend comme ça, yani, sans aller vite. Et il regarde son doigt, que ça soit un homme ou que ça soit une femme. C'est la même chose. Naam. Pour la télévision, est-il permis de regarder les informations ou les reportages sur les animaux autres? Naam. Pour les informations, il est permis de regarder sans fixer l'homme. Si c'est un homme qui fait les informations et je suis une femme, c'est pas la peine que je le fixe. J'écoute seulement ce qu'il est en train de dire. Si c'est une femme et je suis un homme, j'écoute sans la regarder. J'écoute seulement ce qu'elle est en train de dire. Et si c'est un reportage sur les animaux ou autre chose, c'est permis, Inch'Allah Ta'ala. C'est permis, Inch'Allah Ta'ala. Surtout qu'on sait, c'est les animaux, les montagnes, la mer, la nature, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, pourvu que ça ne te fasse pas perdre de temps et que cela ne te retienne pas beaucoup. Bi'idna subhanahu wa ta'ala. Naam. Prochaine sou'elle, Inch'Allah, tafadl. Il est le 406. Salam alaikum wa rahmatullah. Nous est-il permis de parler à la mosquée du sujet qui ne sont pas sujets d'in? Aussi, je voudrais savoir concernant le vêtement de la femme encensé, parfumé. Est-ce que si le vêtement de la femme sent bon à cause du produit du linge et que ça sent légèrement? On rentre dans le hadith qui dit que la salade de la femme quand elle sort n'est pas acceptée tant qu'elle fait pas son rôle. Dans la mosquée, on peut parler des choses qui n'ont pas rapport avec le dîn, mais pas beaucoup. Car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba parlaient de comment qu'il était avant l'islam. Ils parlaient et riaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec eux et ne disait rien. Amen. Mais si ça devient le sujet du matin au soir, c'est interdit. Car il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il est dit que il viendra le temps où les gens resteront dans la mosquée pour parler seulement de la dunya. Il dit à quelqu'un, ou bien il nous dit à nous, attention, ne restez pas avec cela. Attention, ne vous asseyez pas avec cela. Naam. Et le hadith qui dit que quand on parle de la dunya dans la mosquée, ça mange les hasanats comme le feu mange le bois. C'est un hadith très connu, mais il n'est pas vrai. C'est pas un hadith sahih. C'est un hadith qui est faible, qui n'est pas vrai. Qui dit que parler dans la mosquée de la dunya, ça annule les hasanats comme le feu mange le bois. Ça, ce n'est pas vrai. Ça y est. Quand ce qui concerne le vêtement de la femme parfumé, s'il sent de lui-même, c'est-à-dire on lui a rien fait, il a un petit, yani, ils sont propres, c'est tout. Ça, ce n'est pas interdit. Mais si il a une forte odeur, de façon à ce qu'il attire, il attire les gens, il attire les hommes, il devient interdit. Non. Si en marchant dans la rue, cette odeur peut arriver aux narines des hommes, au point où ils se retournent, où là ils commencent à voir, où là ils sentent, ça devient interdit, même si c'est de lui-même. Naam. Et si c'est juste une petite chose qu'on ne remarque pas, ça n'a pas, inshallah ta'ala, de haram. Ça n'a pas de haram, inshallah ta'ala. Ensuite, Hilal 1406, pour ta question personnelle que tu m'avais posée, qui est dans le courrier, je profite pour te répondre, inshallah ta'ala. Écris-moi un si tu veux que je te réponde. Écris-moi un si tu veux que je te réponde. En privé, d'accord. J'allais pas citer la personne. Khalli inshallah en privé. Naam. Tayyib. C'était la dernière question. Sah. Mohamed ibn Ahmed, tafadhal. Je t'ai enlevé le rouge. Tafadhal, Mohamed. Salam alaikum. Que dois-je faire si je me rends compte, après la dernière prière, que j'ai oublié une qui l'a précédée? Si quelqu'un fait une prière, quand il la termine, il se souvient qu'il y avait une avant elle. Il y avait une autre avant elle qu'il a oubliée. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il termine celle qu'il vient de faire maintenant, il dit salam alaikum, salam alaikum. Il refait l'iqama pour celle qui est passée, qui vient de se souvenir. Il fait iqama et il l'a fait elle toute seule, sans ajouter encore l'autre qu'il vient de faire maintenant. Je donne un exemple. Je fais la Isha. Si je me rends compte après la dernière prière, je suis à la maison, là, à la mosquée, là, je suis en train de faire la Isha. Quand je termine, je me rappelle. Je dis, subhanallah, j'ai pas fait Salat al-Maghrib. Qu'est-ce que je fais? Je fais l'Iqama, Allahu Akbar. Je fais Salat al-Maghrib. Et c'est tout. Je ne fais pas encore une fois la Isha. Et de Salat al-Maghrib, qu'est-ce que je fais? Je fais les deux rak'at qui viennent après et je fais l'8. C'est tout. Naam. Prochaine question, inshallah ta'ala. Mohamed ibn Ahmed, tafadhal. Il faut chercher avec moi au Maroc, Vietnam. Naam. Iman, tafadhal, Iman. Afoun. Tayyib, je cherche dans la liste. C'est quel surnom? C'est quel surnom? Abu Abdelhalim. Je cherche ici Abu Abdelhalim. Cherchez avec moi où se trouve Abu Abdelhalim. J'ai pas trouvé. Cherchez avec moi où se trouve. Où est Abu Abdelhalim? Tout à l'as, hein? Je cherche. أبو عبد الحليم، أبو مريم، أبو شيمة، نعم أبو عبد الحليم. أخي أبو عبد الحليم، أخانا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت أنت أخانا تاع مسجد سنة في مارسيليا، حياك الله سبحانه وتعالى معنا، ولا يفوتنا إن شاء الله تعالى أن نعطيك بإذن الكريمة لتنصح بعض إخواننا وأخواتنا في الله سبحانه وتعالى بنصائحك بإذن الله عز وجل القيمة. فتفضل مباشرة وأعطيك إن شاء الله تعالى اللاقط، فحياك الله معنا إذا كنت أنت هو إن شاء الله تعالى. تفضل وأعطيك اللاقط، تفضل. Sans faire rien sur si elle est partie, sans faire rien, inshallah, on laisse pour la prochaine fois, inshallah ta'ala. On laisse pour la prochaine fois, inshallah ta'ala. Naam, inshallah ta'ala, ne fait mouchkin, inshallah ta'ala. Naam. Déjà, il reste seulement quelques minutes. Voyez, personne n'a pris le micro, peut-être que ce n'est pas lui. Imam a dit, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, maghfiratuh. J'ai un petit garçon de 8 ans, il dit qu'on nous prions ensemble et il veut diriger la salat. Je le laisse faire. J'aimerais savoir, en est-il en âge de me guider? Et sinon, que doit-il faire pour les prières déjà faites avec lui? Cher mon fils, un problème de gaz dès qu'il commence la prière et ça l'énerve. Donc je voudrais savoir, dois-je lui imposer son wudu? Dois-je lui imposer son wudu? Non. Dois-je lui son wudu? Car quand je lui dois faire, il ne veut plus prier. Et c'est comment me prendre cher. J'ai peur de lui faire détester sa salat en insistant. Confiez-moi, jazakallahu khairan. Naam. Confiez-moi, jazakallahu khairan. Naam. Une seconde, inshallah ta'ala. Une seconde. Je dois faire quelque chose ici dans la liste. Une seconde, inshallah. Une seconde avant de te répondre, inshallah ta'ala. Naam. Un enfant qui a 8 ans, bi'idnillah azza wa jal, il peut guider dans la prière. Car dans un hadith sahih, dans le sahih Abi Daoud, le Sheikh Al-Albani, Allah yirhamo, il y a un hadith où un jeune avait fait la salat des sahaba. Il a guidé les sahaba et il n'avait que 7 ans. Il n'avait que 7 ans et il avait guidé les sahaba radiallahu ta'ala anhu au point où yani quand il faisait l'incliné, il se prosternait, on voyait sa aura. Yani il n'avait même pas les vêtements nécessaires. Yani d'ailleurs après, on s'est regroupé, on lui a acheté un très beau vêtement. Un très beau vêtement. Naam, il n'avait que 7 ans. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il est permis qu'il fasse la prière, mais si tu es sûr que, yani il a le wudu. Si tu es sûr que il a le wudu. Naam, il est en âge de guider, inshallah ta'ala, s'il a le wudu. Mais s'il n'a pas le wudu, il est impossible de guider. C'est pour ça qu'il faut, tant que il n'est pas encore pubère, tu vas avec lui doucement, pour qu'il ne déteste pas la salat. Naam. Doucement, lui faire comprendre qu'inshallah ta'ala, yani, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a le wudu, mais il a des gaz. Naam, il a des gaz, il ne doit rentrer dans la salat que quand il reste juste un moment pour rentrer dans la salat. Naam, parce que avoir des gaz, ça devient une maladie. Et quand on a cette maladie, on ne peut pas rentrer dans la salat, sauf quand il reste seulement yani quelques minutes et c'est le temps de la salat. Dans ce cas, même s'il rentre dans la salat, il a des gaz, ça ne fait rien. Akhoukoum fillah Abu Abdul Halim, hayakallah ya Sheikh Abu Abdul Halim. حياك الله معنا. نحن أعطيناك اللاقط لكن أنت لم تتكلم، ما أدري لعلك إن شاء الله تعالى معذور. أعطيناك اللاقط لتتكلم لكن إن شاء الله تعالى لعلك لم تستطع أو لعل الله سبحانه وتعالى يعلم أن لك عذرا بإذن الله عز وجل. Je disais que إذا أردت اللاقط أخبرني، إذا أردت اللاقط بإذن الله عز وجل أخبرني حتى يعني أرفع عنه. آمين. بارك الله فيك. Et comme je disais, inshallah, la nasiha, doucement, pour ne pas, inshallah ta'ala, lui faire détester la khurbi idna azza wa jal. Et pour les gaz, tu lui dis de yani faire le wudu à la dernière minute. Ensuite, quand il fait le wudu, il rentre dans la salat, même s'il a les gaz, il est ma'zour bi idna azza wa jal. Tfadl, Abu Abd al-Halim, tfadl.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع بارك الله فيكم. بارك الله فيكم وحفظكم الله وسدد خطاكم وأحسن الله إليكم. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما تبذلونه في ميزان حسناتكم نصرة هذه الدعوة المباركة لا وهي الدعوة السلفية دعوة الحق. بارك الله فيكم. لو سمحتم لي أن أتكلم يعني معكم في هذا اللقاء أن أشرح لكم حديث إنما الأعمال بالنيات.
تفضل إن شاء الله تفضل. حياك الله تفضل.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أخوتي في الله نقضي هذه اللحظات المباركة مع حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته بدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وفي رواية أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم، فهو حديث صحيح متفق عليه. ولم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمر بن الخطاب، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى ابن سعيد الأنصاري، وعن يحيى انتشر. فرواه عنه أكثر من 200 إنسان أكثرهم أئمة. ولهذا قال الأئمة ليس متواترا، وإن كان مشهورا عند الخاصة والعامة لأنه فقد شرط التواتر في أوله. وفيه طرفة من طرف الإسناد، فإنه رواه 3 تابعيون عن بعض، يحيى ومحمد وعلقمة، وقد ورد من طرق معلولة ذكرها الإمام الدرقطني رحمه الله تعالى وأبو القاسم بن مندة وغيرهما. وقد ورد في معناه عدة أحاديث صحيحة في مطلق النية، كحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسفوا بأولهم وآخرهم. قالت يا رسول الله كيف يخسفوا بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعث على نياتهم. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنصرتم فأنفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وهذا الحديث أخوتاه له مكانة عظيمة عند أئمة الحديث. قال أبو عبد الله ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. واتفق عبد الرحمن ابن مهدي والشافعي فيما نقله البوطي عنه وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني على أنه ثلث الإسلام. وقال ابن مهدي يدخل في 30 بابا من العلم، وقال الإمام الشافعي يدخل في 70 بابا. ويحتمل أن نريد بهذا المبالغة. ووجه البيهقي رحمه الله تعالى كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامه الثلاثة، وأرجحها لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها. وكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليه الأحكام، وهي هذا ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وفي رواية مشبهات. وقال الإمام أبو داود أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. وفي رواية أخرى حديث النعمان الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي رواية أخرى عنه أنه قال الفقه يدور على 5 أحاديث: الحلال بين والحرام بين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال بعضهم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الدنيا في قوله من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وجمع أمر الآخرة في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال بعضهم من عمل عملا صالحا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ميزان الأعمال الظاهرة، وقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال الباطنة. وبفضل هذا الحديث يقول عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. وقال أيضا ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها لطالب العلم على تصحيح النية. وقد فعل ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقد بدأ بهذا الحديث في جامعه الصحيح، الجامع الصحيح بدأ في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى فبدأ به كتابه رياض الصالحين وكتاب الأذكار وكتاب الأربعين النووية، فقد ذكر في هذا الحديث في أول الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين، أبو حفص عمر بن الخطاب ابن نويفل ابن نويفل القرشي العدوي رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين والإمام العادل الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. ولد بعد عام الفيل ب13 سنة وأسلم قبل الهجرة ب5 سنوات ودامت خلافته بعد أبي بكر 10 سنوات و6 أشهر. قتله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي بخنجر مسموم طعنه في خصرته. وقد جاء في فضله رضي الله تعالى عنه أحاديث كثيرة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا نبي الله أو عليك أغار؟ رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجا، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم أو كان فيما خلق قبلكم من الأمة ناس محدثون، فإن يكن في أمة أحد فهو عمر بن الخطاب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت الناس في المنابر يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يزره، فقال من حوله ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما عند علماء اللغة تفيد الحصر، ويقول الحصر معناه تثبيت المذكور ونفي ما عداه. ومما يدل على الحصر والقصر أولا الأداة هذه إنما، وأيضا لفظ الأعمال، والأعمال هنا جمع محلى بأل، وهذه أل المراد منها كما يقول أصحاب اللغة أل الاستغراقية تشمل جميع الأعمال، لفظ يشمل جميع الأعمال الشرعية وغير الشرعية. فالمراد بها في هذا الحديث الأعمال الشرعية أو غيرها، المراد بها الأعمال الشرعية أي إنما الأعمال الشرعية بالنيات. فالأعمال الشرعية تفتقر إلى نية، وهناك بعض الأعمال لا تفتقر إلى نية، مثال الأكل والشرب وإزالة النجاسات ما تحتاج إلى نية. وإن كان مذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم أن النية في جميع الأعمال، وعلى كل حال فالنية مطلوبة وخاصة في الأعمال الشرعية أكيدة ولازمة. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهو من مقابلة الجمع بالجمع، أي كل عمل بنيته. وقال الحربي كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال، كمن قصد بعمل وجه الله أو تحصيل موعوده أو انتقال وعيده، وقد وقع في معظم الروايات بإفراد النية، ووجه أن محل النية القلب. وهو متحد فناسب إفرادها بخلاف الأعمال، فإنها متعلقة بالظواهر وهي متعددة فناسب جمعها، ولأن النية ترجع إلى الإخلاص وهو واحد للواحد الذي لا شريك له. قوله بالنيات، النيات جمع نية ومعناها القصد والعزم وهو عزيمة القلب، وفي الشرع خصصها بالإرادة المتوجهة نحو الأفعال ابتغاء رضا الله جل وعلا وامتثال حكمه. فالنية عباد الله معناها القصد والعزم، فتنوي بعملك هذا وجه الله جل وعلا، تريد بعملك هذا وجه الله جل وعلا، ولهذا محلها القلب ومعناها القصد والعزم. ومن هنا لا يجوز التلفظ بها لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصوم ولا في غيرها من العبادات. وأما ما يقول وأما ما يصدر من بعض الناس كقول بعضهم: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر آداء لا قضاء، فهذا من محدثات الأمور. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يجوز التلفظ بالنية، فالنية هي العزم والقصد، والنية يؤتى بها أيضا للتمييز بين العبادة والعبادة الأخرى، بين العبادات. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هاتان الجملتان اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيهما، فقال بعض العلماء إنهما بمعنى واحد، وأن الجملة الثانية تأكيدا للجملة الأولى، ولكن هذا ليس بصحيح، وذلك لأن الأصل في الكلام أن يكون تأسيسا لا تأكيدا. فمعنى قولي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هو كما قلنا أن كل عمل لا بد فيه من نية، إذن الأساس أنه ما من عمل إلا بنية. والنتيجة وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إن إذا نويت الله والدار الآخرة في أعمالك الشرعية حصل كذلك، وإن نويت الدنيا قد تحصل وقد لا تحصل. قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما قال عجلنا له ما يريد، بل قال ما نشاء، أي لا ما يشاء هو، لمن يريد لمن نريد لا لكل إنسان، فقيد المعجل والمعجلة. إذن من الناس من يعطى ما يريد من الدنيا، ومنهم من يعطى شيئا منه، ومنهم من لا يعطى شيئا أبدا. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة في اللغة هي الترك، والهجرة إلى الشيء هو الانتقال إلى غيره، وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه، وقد وقعت في الإسلام على وجهين: الأولى الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما في هجرة الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة. الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان. إذن فالهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، والناس يختلفون في الهجرة، منهم من يهاجر ويدع بلده إلى الله ورسوله، يعني إلى شريعة الله التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينال الخير وينال مقصوده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله فقد أدرك ما نوى. الثاني هاجر لدنيا يصيبها، مثلا رجلا يحب جمع المال، فسمع أن في بلاد الإسلام مرتعا خصبا لاكتساب الأموال، فهاجر من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام فقط، لا بقصد أن يستقيم على دين الله ولا يهتم لدينه، إنما همه المال. الثالث هاجر من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو الثاني هاجر من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام يريد امرأة يتزوجها، فهاجر إليها، فمريد الدنيا ومريد المرأة لم يهاجر إلى الله ورسوله. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهنا قال إلى ما هاجر إليه، ولم يقل فهجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. لماذا؟ قيل هذا لطول الكلام، فقال فهجرته إلى الدنيا يصيبها ولم يعد ذلك لطول الكلام، وقيل بل لم ينص عليها احتقارا وإعراضا عن ذكرها لأنها نية فاسدة. فقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أعاد الجملة مرة ثانية لبيان فضل هذه الهجرة. وأما من هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته هجرة يعني خسيسة وهجرة فاسدة منحطة، ولهذا لم يقل صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، فلم ينص عليها احتقارا وإعراضا عن ذكرها لأنها نية فاسدة منحطة. وعلى كل حال فإن هذا الذي نوى بهجرته الدنيا أو المرأة لا شك أن نيته سافلة منحطة هابطة، بخلاف الأول الذي هاجر إلى الله ورسوله. أقسام الهجرة: الهجرة تنقسم إلى ثلاث أقسام: هجرة العمل، وهجرة المكان، وهجرة الإنسان أو هجرة العامل. هجرة المكان بأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي ويكثر فيه الفسوق، وربما يكون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك، وأعظم الهجرة من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام. وقد ذكر العلماء أنه تجب الهجرة من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يظهر دينه، ولهذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قبل أن تكون دار إسلام، وهاجر أصحاب الحبشة لما منعوا من إظهار دينهم. وكذلك الهجرة من المكان الذي تكثر فيه المعاصي، الذي تكثر فيه المعاصي، والدليل ما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، إلى أن قال فدل على عالم، إلى على عالم فقال طلب هل من توبة، لأنه لما سأل الراهب هل من توبة أغلق باب التوبة في وجهه فقتله كمل به 100. وهذا مما يدل أخوتاه، مما يستفاد من هذا الحديث، أن الذي يريد أن يسأل عن دينه وأن يتفقه في أمور دينه فعليه أن يسأل أهل العلم، امتثالا لقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن يسأل الجهال، إما أن يسأل الجهال فإن الجاهل قد يوقعه يعني في المصيبة، ويوقعه في الحرام، ويوقعه فيما يخالف شرع الله جل وعلا، بدليل أنه لما سأل الراهب هل من توبة يعني قال له لا، أغلق باب التوبة في وجهه. لكنه لما سأل العالم يعني وقد قتل 100 نفس فقال له العالم وما يحول بينك وبين التوبة، ثم نصحه أن يخرج من هذه القرية، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضه فإنها أرض سوء. هذا الشاهد عندنا يعني الهجرة من مكان أهل السوء ومن أرض الفساد ومن أرض الكفر. القسم الثاني هجرة العمل، وهي أن يهجر الإنسان ما نهاه الله عنه من المعاصي والفسوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فهجر كل ما حرم الله جل وعلا، سواء كان مما يتعلق بحقوق الله جل وعلا أو مما يتعلق بحقوق عباد الله، فتهجر السب والشتم والقتل والغش وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وكل شيء حرمه الله تهجره. هذا القسم الثاني من أقسام الهجرة. القسم الثالث هجر العامل، فالعامل قد تجب هجرته أحيانا، قال أهل العلم مثل الرجل المجاهر بالمعصية الذي لا يبالي بها فإنه يشرع هجره إذا كان في هجره فائدة ومصلحة، والمصلحة والفائدة أنه إذا هجر عرف قدر نفسه ورجع عن المعصية، أما إذا كان الهجر لا يفيد ولا ينفع وهو من أجل معصية لا من أجل كفر، لأن الكافر المرتد يهجر على كل حال أفاد أو لم يفد، فهجر أهل المعاصي ثابت، ودليل ذلك قصة كعب بن مالك، وكذلك هجر أهل البدع والأهواء، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فهجر أهل البدع والأهواء هذا يعني من أصول أهل السنة والجماعة لردعهم ورد يعني ما هم عليه من انحراف وما هم عليه من بدع. وقد ذكر هذا الإمام العلامة الإمام البغوي رحمه الله تعالى في كتابه القيم شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. هذه كلمة موجزة أخوتي في الله شرحا لحديث إنما الأعمال بالنيات. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وجعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبارك الله في جهودكم وما تبذلونه من نصرة هذه الدعوة المباركة ألا وهي الدعوة السلفية. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وإذاكم الله خيرا وسدد خطاكم لكل ما يحبه الله تعالى ويرضى، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
عفوا، بارك الله فيكم على هذه الكلمات القيمة وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يجعل في ميزان الحسنات يوم القيامة، وأن ينفع بها إخواننا وأخواتنا اللائي كنا يسمعنا يعني للدرس. فبارك الله فيكم جزاكم الله خير مرة أخرى. فإن شاء الله تعالى يعني لابد الآن بإذن الله عز وجل أن نفترق، لأن الساعة عندنا الواحدة ونصف ليلا. عفوا، نلتقي إن شاء الله تعالى في مرة أخرى. الله سبحانه وتعالى يجمع بين قلوبنا، وأن يهدينا ما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا. Je dis à mes frères et mes sœurs que, inshallah ta'ala, il est déjà 1h30 du matin. Je dois, bi'idna azza wa jal, vous laisser. On se rencontrera, inshallah ta'ala, mercredi pour le dars de Jam' al-Sahih, le Cheikh al-Albani, Allah yarhamou. D'ici là, inshallah ta'ala, je vous verrai, inshallah ta'ala, bi'idna azza wa jal, fi hifdih. Subhanak Allahum wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.